Bonsoir tout le monde et bienvenue au 51e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec le poulet divan. Ce plat à base de poulet, de brocoli, d'amandes et de sauce mornay. Bon, ça ne ressemble pas du tout, hein? Mais bon, notre appréciation de cette volaille ne s'adressant qu'aux mâles de cette espèce. Le coq. Je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut.
Et de Jean-François Laporte.
Ben oui.
Alors, nous sommes lundi le 28 août 2017, journée de la libération de la mamelle, plus connue sous le nom du Go Topless Day aux États-Unis. Évidemment, bon, on aimerait saluer tous les totons qui nous écoutent. Ah. Je me doute que vous êtes nombreux.
Ou qui font le podcast.
Allô?
Allô?
Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Commençons par toi, mon cher Dan.
Tu veux dire, à part t'envoyer le lien de cette journée-là, puis que ça crisse en thumbnail une photo d'une fille qui a les seins à l'air. Là.
J'ai dit que ça fait de bon. Ouais, qu'est-ce que t'as fait de bon? Ça compte. Ouais, ça compte.
Bon, ben j'ai continué mon immersion dans l'univers de PUBG.
Oui, de PlayerUnknown's Battleground.
Oui, avec des amis. Là, j'ai quand même joué plusieurs games en allant visiter un
Alors,
des
deux
amis.
Alors, deux affirmations, une vérité, un mensonge. On passe au vote. Oui, continue.
Ben, t'as-tu joué, toi? Non. Moi, j'ai pas joué. C'est ça le mensonge.
Quand même un peu mieux. J'en ai parlé la dernière fois de mes deux premières games là, qui ont duré 12 secondes là, au total, les deux. quand même un peu mieux, mais la learning curve, là, la courbe d'apprentissage est quand même assez intense. J'ai joué plusieurs games avec des gens qui me donnaient des bons trucs, puis j'ai quand même déjà joué à des jeux vidéo, puis c'est difficile, là. C'est...
J'aime bien que tu sentes besoin de stipuler que tu as déjà joué à des jeux vidéo.
Parce que je fais pas un podcast à chaque...
Si peu.
Oui. Bref, c'est quand même vraiment difficile, ce qui est pas désagréable, là. C'est juste pour t'y attendre. Quand même gagné une coupe de game, là. J'étais loin d'être le MVP dans ces games-là. Mais bon, par contre, ben, j'ai fait mon premier kill dans une de ces games-là. Puis comme quelque chose de très satisfaisant dans un jeu où c'est pas évident de tuer du monde, d'avoir un premier kill, là.
C'est clair.
Puis là, t'es comme, je l'ai eu. Je l'ai eu.
Y a-t-il un achievement?
Non, il n'y a pas d'achievement. En tout cas, j'ai pas remarqué qu'il y en
a. Ils font comme. T'es pas supposé tant célébrer ton premier kill,
c'est
maudit.
C'est juste un, là. T'sais. Dans le même game, je pense que l'autre m'avait tué comme 5 ou 6. Mais tu sais, c'était un beau kill là, avec un pistolet pour défendre un chum. Puis tu sais, c'était comme. C'était nice, là.
Avec la toune du bodyguard qui joue en arrière. Ouais. Tout. S'il te plaît, non.
Ah, moi, j'en demandais plus. T'as fait, on en fait un segment. Là.
On n'est pas à la même place hein, dans notre journée, là.
Ben sinon, c'est un peu plus tôt cet été, là, je n'avais pas parlé la dernière fois parce que bon, on avait quand même beaucoup de choses à jaser. J'ai essayé un jeu que ça fait un bout de temps que j'avais sur ma liste qui s'appelle Kona. Si vous connaissez pas, là, Kona,
oui.
Jeu d'aventure ouais, qui est ben, développé au Québec, mais qui se passe aussi tout en Abitibi en octobre 70. Là. Fait qu'il y a quand même quelque chose, il y a l'air d'avoir des affaires un peu surnaturelles, des choses comme ça. J'ai pas assez joué pour en parler pour l'instant, mais
y a-tu vraiment beaucoup nice, de ministres qui souffrent au courant du jeu ou c'est...
Je pourrais pas te dire pour l'instant.
J'ai assez hâte de savoir.
Fait intéressant, la narration est faite entièrement par Guinadon.
Mm-hmm. Ouais, c'est comme c'est le gars qui s'offre pour tous les jeux en québécois, je pense. Là. Mais, il a fait Chariot, okay. Qui est un jeu, je crois que c'est une production ontarienne, mais il fait le rôle du roi qui est mort puis qu'on doit amener son cercueil à destination. C'est lui qui fait le roi.
Il s'est fait faire la voix
ouais.
du roi mort.
Ouais. Ouais, mais c'est un fantôme, puis il te nargue tout le long parce qu'il est vraiment chien. Non, il faisait une super belle job, c'était cool.
Mais en tout cas, le jeu, je vais continuer à y jouer. Probablement plus cet hiver, j'ai le goût d'être dans le mood, tu sais, ça se passe l'hiver, puis tout ça me semble question d'être plus immersif.
J'ai comme pas le choix de revenir, mais y a-tu quelqu'un pour qui c'est un argument de faire « Hey dude, c'est Guinadon qui fait avoir ben, Oh, ouais. Ouais.
Ah, ben, pas un argument, mais oui, c'est un ça. Fait intéressant.
Buy it now, tu sais, puis tout.
Hein. Ça n'a pas été ça qui a été le côté décisif. Là, c'est le fait que c'est développé ici, que c'est un jeu d'aventure, que ça se passe au Québec. Et.
Ouais, ouais, ouais. OK.
C'est ça. Mais côté gaming, c'est un peu ça. On dirait que j'ai hâte d'avoir un jeu qui me captise fait temps-ci. Il n'y a comme rien qui m'attire énormément et qui me garde tout mon temps. Update lecture, peut-être. J'ai fini Waking Gods, qu'on avait parlé la semaine passée, là, qui est le deuxième tome de la série de Themis Files.
En fait, les deux.
Ah ouais?
Yeah. Ouais, mais il commence celle. Non, on serait, nous en a parlé sur notre chat entre les deux podcasts,
ouais.
Qu'il était rendu dans le deuxième livre.
Oui. Puis quand Jeff me disait, tu sais, Watch Out, là, le deuxième, il est vraiment plus rough, là, puis plus dark, là. Shit, t'avais raison. Fait que, on vous le conseille la dernière fois, je vous le reconseille à nouveau.
Puis là, Sylvain Neuvel, le maudit tease, qui a teasé sur Twitter la pochette, la couverture du prochain tome qui va être Only Human, qui sort en 2018.
La couverture qui doit être genre noire avec un petit
Non, mais c'est pas si mal, parce que tu sais, souvent dans les livres, des fois, les si on pense à Game of Thrones ouais, et autres, l'espace entre chacun des volumes peut être plus important que ça. C'est quand même bien que c'est 2018.
En regardant un peu, Sylvain Nouvelle a écrit une nouvelle, je pense, ou une short story de Star Wars.
Sylvain Nouvelle, oui.
Sylvain Nouvelle.
Bon. C'est quoi que notre invité la semaine dernière?
Applaudis, oui! Ah ouais, c'est bien là!
Quasiment, quasiment. Donc, il disait, ça me donne le goût de sacrer mon casque. C'est juste plate, on enregistre chez nous, là. Mais...
Ah, tu peux aller prendre une bière et revenir tantôt. Là.
On va barrer, mais quoi?
Vous êtes donc bien gentil.
On est galant. Ben, finalement, je finis là-dessus. Mon beau-frère Sean m'avait offert pour ma fête un modèle, dans le fond, de Gundam à construire. Mm-hmm. C'est une figurine finalement là, à scale 144e là, en tout cas. Comme un modèle à coller finalement, mais qui snap, puis t'as pas besoin de peinturer là. Fait que je l'ai fait.
ça a comme revenu. Quand nous on était kids, t'avais les snap tights, c'est comme oh, t'es un guide brun snap tight, puis monte ton petit crise de char. Mais là après ça, avec les Gunpla, je pense.
Ouais, Gunpla qui est là comme une espèce de.
Ouais, ben c'est
série,
une espèce de thermombrelle qui regroupe un peu tous ces modèles hyper détaillés-là, articulés aussi. C'est ça qui est très différent, par contre.
Puis extrêmement articulé, puis quand même de façon impressionnante. Fait que, ouais, ça a été une expérience que j'ai comme trouvé assez intense, zen et satisfaisante. Je pensais pas avoir autant de plaisir à m'installer avec mes petites pièces, puis mon cutter, puis assembler tout ça. Puis ça a été vraiment nice, c'était vraiment le fun à faire.
C'est tellement cool parce que, tu sais, de l'époque de nos parents. T'sais, c'était d'assembler des avions, des bateaux. Puis là, tout le monde, des robots.
Ouais, mais les autres, ils trippaient à cause de la colle. C'est pas pareil.
Ça me fait penser aux heures que j'ai mis à assembler mes figurines de War Machine.
Ouais.
Que c'est vraiment pas zen. C'est de la frustration totale. Okay, les doigts collés complètement.
Mais c'est là où on tombe dans le oddly satisfying d'assembler quelque chose que ça clique.
Ça clique ensemble. Puis tu y vas, tu fais un bout, tu es comme... Oh shit, j'ai un torse. Oh shit, j'ai une tête.
C'est une expérience nouvelle, quand même.
Oui, c'est ça.
C'est un beau lien avec une tête. C'est un beau lien avec les livres.
Oui, quand même un peu. Puis ça m'a donné le goût de découvrir un peu cette série-là parce que je connaissais la série de façon générale, là, mais sans vraiment comme pouvoir dire plus de choses que ça.
De Gundam, c'est
pas ouais. Fait que j'ai décidé de me pogner la vieille série, celle duquel il vient, là, des années 80. Non, en fait, c'est souvent dans les meilleurs qui sortent.
Le modèle que t'as date de la série originale?
De Mobile Suit Gundam Zeta, genre.
OK, ça me dit rien. Whatever. Mais bon, pour ceux qui sûrement quelqu'un qui sera offensé, qu'on se trompe.
Genre 83-86, je pense, dans les dates. J'ai pensé en écouter. C'est quand même bien, mais c'est 80s as fuck, là. Genre, c'est vraiment très, très 80. Je fais une petite checklist, là, pour comme qu'on se comprenne. Là, personnage principal qui passe son temps à se plaindre.
Check.
Histoire qui avance lentement.
Check.
Ouais, check. Générique de 8 minutes.
Ah, nice. Check.
Gros crise de robots awesome qui se battent.
Check.
Check.
Fait que, bref, assez classique là, dans le style, mais on est content. C'est quand même nice.
Quelqu'un qui passe en arrière de toi pendant que tu l'écoutes et qui demande « C'est-tu Goldorak, ça? » Check.
ça aurait été difficile. Dans mon sous-sol, ça aurait été weird. Un peu. Genre, ça aurait été comme « Non, puis qu'est-ce que tu calises dans mon sous-sol? »
Dans ce tour-là, quand même, c'est intéressant.
Non, mais c'est l'assiduité. Tu réponds à la question.
C'est ça, c'est.
Rigueur.
Je suis poli.
Écoute, ton éducation est irréprochable.
J'ai atteint un peu, mais appelé la police, m'a te répondre après. c'est ça. J'ai...
Veux-tu quelque chose à boire en attendant?
On est Canadiens, quand même.
Si peu. Mais écoute.
Fait que, c'est pas mal ça. Je m'amuse à stresser parce que je recommence à travailler cette semaine. En tout cas, pour vous autres, j'ai déjà recommencé, mais c'est ça. Hey, Matt, toi,
c'est ça? Sacré, c'est le segway le plus brutal qu'on a fait. En fait, dans ma semaine, j'ai fait peu de choses, mais il y a des choses que j'ai revisitées, puis je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager ça. Ça fait plusieurs fois que je me retrouve à aller revisiter le site de la Pico 8. Je vous explique ce qu'est la Pico 8. C'est une console fantastique pour une traduction de merde. C'est une fantasy console 8-bit. Donc, c'est une fausse console 8-bit qui n'existe pas, mais qui a été complètement développée, qui a un spec, qui a des specs de chip audio, des limites de palette de couleurs, de résolution, etc. Puis, les gens peuvent développer pour... Il y a un interpréteur en HTML5, donc on peut jouer directement au jeu développé pour cette console fantasy-là
dans le navigateur.
Il y a un build pour le Raspberry Pi, qui est quand même un endroit bien indiqué pour ça. Et il y a aussi un build pour le pocket chip. Le processeur lui-même s'appelle le chip. C'est une espèce de compétiteur au Raspberry, mais qui est beaucoup, beaucoup plus compact, moins performant, mais qui est vraiment fait pour faire plus des intégrations petites. Puis dans le pocket chip, il est natif, parce que dans le fond, le chip, c'est le processeur lui-même. Puis on peut acheter un kit qui fait comme une espèce de petit ordinateur qui a la taille d'un Game Boy, il est natif dedans. Parce qu'une des particularités de la console, au-delà de son 8-bitisme, c'est qu'on peut modifier tout en temps réel dessus. Donc, on peut aller modifier les sprites dans le jeu, on peut aller modifier le code du jeu en temps réel. Donc, tout ce qui est là doit être open source parce qu'on peut le modifier en direct. Puis, vraiment, du monde font des choses intéressantes parce qu'évidemment, c'est plus fort qu'une console 8-bit l'aurait vraiment été pour faciliter le développement. Puis, on peut l'utiliser avec des langages plus modernes. Ben, c'est du Lua, en fait, qu'ils utilisent, du scripting Lua adapté. Mais il y a quelques petits jeux, en fait, si vous êtes curieux de ce que ça peut être, puis on s'entend que c'est facile, vous l'essayez en HTML5. Il y a deux jeux en particulier que je veux vous présenter. Céleste, qui est un jeu qui s'en vient, là, du créateur de Towerfall, qui sort sur Switch puis sur plein de plateformes majeures, mais ça a commencé sa vie sur Pico 8. C'est un jeu de platforming très, très intense, très, très hardcore, super cool. Donc, Céleste, qui est disponible pour la Pico 8, et The Lair, qui est un espèce de petit beat-em-up, mais qui est vraiment comme un des plus polished que j'ai vu pour la plateforme, qui est vraiment comme du parallax scrolling, la musique est vraiment cool, un bon système genre de charge puis de defense dans le beat-em-up. Super sympathique. Fait que bref, c'est quelque chose que j'aimerais avoir le temps de jouer avec, parce que c'est vraiment c'est une belle plateforme juste pour les enthousiastes.
Puis, tu parles de Céleste, est-ce que c'est comme une proof of concept?
Je sais pas c'était quoi le but quand ils l'ont créé là. Peut-être que c'est... Je sais pas si c'est comme le déclencheur qu'ils ont fait, qu'ils sont venus à faire le jeu complet.
C'est comme ou c'était juste
Peut-être. Écoute, mais je sais que c'est une version clairement beaucoup plus simple que ce qui est devenu le produit commercial qui s'en vient là. Mais le gameplay fondamental est tout là.
Puis, la Pico 8, c'est une plateforme qui a suffisamment de jeux pour que ça pourrait intéresser quelqu'un de se monter un Raspberry Pi pour ça?
Je le ferais pas exclusivement pour ça, malheureusement, parce que non. Des jeux qui valent la peine. Il y a très peu de choses qui ont de la lasting value. Il y a peu de choses que tu vas dire, oh, je m'en vais retourner jouer à ça, je capote. Pas pour l'instant, malheureusement. Mais je pense que c'est une plateforme plus pour enthousiastes, pour gens qui voudraient développer. Je pense que ça regarde peut-être plus les programmeurs et hobbyistes. Mais sinon, tu laisses un HTML5 puis tu vas probablement.
Ouais, puis de toute façon, ce qui est nice avec un Raspberry Pi, c'est qu'on s'entend, là, c'est un switch de carte micro SD puis paf, là, tu sais.
Oh, ouais, c'est ça.
J'aimerais savoir quelqu'un qui exécute un Raspberry Pi Pico 8 parce qu'il y a des écrans 128 par 128 qui est la résolution du Pico 8. Donc, avoir un écran de taille native monté dans un Pi puis avec des cassettes. Parce que tous les jeux sont présentés sous forme de cartes.
Okay.
Donc, il y a l'idée de dire qu'on pourrait dynamiquement charger le fichier en mémoire puis changer de cassette. C'est quelque chose qui serait faisable. Fait que j'aimerais avoir une solution un peu plus professionnelle qu'un maudit 3D print là, qu'on voit tout le temps de ces gogosses-là, qui ont tant fini cheap, là, d'avoir quelque chose de plus beau. Mais bon, hein, assez parlé de ça. Vous irez voir. Puis ça vient chercher une petite fibre fan de rétro avec une approche moderne.
Tu en as déjà parlé de ça. Il y a un autre. Ça, c'est la version 8-bit, mais il y a une version voxel.
Il y a une version voxel. J'en ai déjà parlé, en dehors du show. Là. Le même développeur a fait une version voxel. D'ailleurs, si tu veux acheter les plateformes, je ne sais pas ce que ça consiste là, de les acheter, mais je pense que le Voxatron, qui est la version voxel, elle, tu dois absolument l'acheter. Puis je pense qu'il te donne des trucs là, du Pico qui vont avec, etc. Là. Mais c'est ça, les deux sont vraiment faits comme side by side, puis le Pico 8 est en plus la plateforme plus ouverte des deux, finalement.
Cool.
Et ensuite, il y avait un article que j'avais bookmarké un peu avant qu'on parte en pause de sur Polygon, que je trouve qui était vraiment fascinant pour les amateurs de jeux de société, qui est je ne saurais même pas prononcer son nom, Monsieur Volko. J'ai essayé finalement.
Mais t'as essayé.
Ouais, on approuve, ça va. Okay, cool.
C'est un designer de jeux de société qui est engagé par la CIA pour designer des jeux qui reproduisent des abstractions des systèmes qui ont besoin de comprendre ou de faire comprendre à différents membres des équipes. Le gars a d'ailleurs ensuite designé des jeux de société indépendamment d'eux, mais veut pas, il y a beaucoup de son bagage qui vient de là, puis il travaille toujours avec un consultant de la CIA pour ce qu'il a le droit de faire et non, vu le bagage qu'il a. Puis Polygon a fait un article, justement, une entrevue avec lui qui explique un petit peu tout son background de M. Volko. Chose là, de GMT Games. Mais tous ces jeux de société, là, c'est la série Coin, C-O-I-N. C'est tous des jeux de stratégie militaire assez intense. Puis pas forcément juste de terrain. Là. Ils ont un jeu, c'est Labyrinth, The War on Terror, qui est plus sur à grande échelle ce qui se passe après des événements comme le 11 septembre, puis comment ça s'applique. Fait que c'est vraiment comme super intéressant d'avoir l'insight de ce gars-là. Et dans ces jeux, oui, mais de voir où son craft vient. Fait que je mettrai le lien vers l'article parce qu'il n'y a pas de short link là-dessus.
Parenthèse, parce que tu parles du 11 septembre, là, puis je ne l'ai pas choisi dans mes... Il y a un film qui s'en vient?
De qu'est-ce que
c'est? Comme qui se passe le 11 septembre d'un tour. Votre point de vue là-dessus? C'est comme, on est comme...
Tout ça?
Ouais.
Non, je sais pas. Encore, j'ai rien contre le produit. j'ai rien contre le fait de faire quelque chose qui se passe là, sauf que j'arrive pas à imaginer c'est quoi l'angle où est-ce que t'es pas un hostile manipulateur sale de vouloir faire une histoire qui se passe là, de faire comme c'est que le monde va brailler, ça va être écœurant, genre. Je peut-être je pourrais être surpris là, parce que ça m'arrive souvent, mais je le vois pas.
Mais j'étais curieux.
Ça s'inscrit dans cette lignée-là. On part sur une tangente complètement.
Oui.
Mais tu sais, tous les films qu'on fait après des événements là, comme marquants, comme ça, il y a une truc.
Ah, tu veux dire comme The Social Network, là?
mais tu sais, il y a Deepwater Horizon, Deepwater, le film?
Non, mais il y avait tout dire.
Le film qu'on fait par rapport à ça, là, le Oil Spill.
Oui, ok, ouais. Puis il y avait aussi évidemment Zero Dark Thirty.
Oui, Zero Dark Thirty. Mais le film de Deepwater Horizon était actually très très bon.
Mm-hmm. Ouais, mais.
Peut-être moyen de prendre une twist, mais c'est peut-être un peu profiter de. Mais
quand c'est un peu documentaire, parce que c'est une conversation qu'on parle, quand c'est un. Tu sais, je peux imaginer justement qu'on parle du oil spill de BP, c'est facile de le faire d'un angle documentaire, puis tu prends la position de personnage, comme ça, c'est plus facile de conter une histoire. Bon, OK. Y a pas de mystère à ça à faire un. C'est quoi, de docudrama, dans le fond, là.
Ouais.
Mais d'un tour, genre, de quelqu'un qui fait. Oh non!
Mais ben, je sais pas, en tout cas. Bref, hein, on verra.
Oui, excusez, c'est la tangente de la semaine. On en fera une discussion une autre fois, puis vous serez complètement outré à ce moment-là.
Voilà.
Voilà. Fait que c'était tout ce que je voulais parler, en fait, parce que ça a dérapé. Jeff, dérape à ton tour.
Ben, depuis le dernier enregistrement, on a fait beaucoup de VR, en fait. Puis t'en as pas parlé, mais on a fait quand même beaucoup de VR ensemble.
Oh, moi, c'est de la routine.
On sait bien. Mais moi, j'ai eu l'occasion de brancher mon Oculus Rift depuis la dernière fois. Puis on a pu se permettre un petit peu du Rise of the Jumbotron avec GF, justement.
Avec GF Comp, ouais.
Fait que super, super plaisant.
Ah, puis on est à ça, là. En fait, je vous dis ça là, et ça sert à rien, parce que l'épisode va être déjà passé. Mais vous irez voir dans les archives du stream de GF Cromp. Si tout s'est bien passé, on va avoir fini Rise of the Jumbotron jeudi après le show, donc jeudi passé, si vous écoutez ça la semaine de la sortie. C'est compliqué de checker dans les archives.
Ouais, parce qu'au moment de l'enregistrement, on était tellement proches.
On était tellement motherfucking proches.
On l'a vu. On a vu Jumbotron en personne.
Ouais, il est quand même gentil. C'est un bel écran.
Il était cool.
Ben, on va l'avoir.
Beaucoup de VR. J'ai aussi découvert une télésérie que j'ai mis de côté longtemps, qui est Gotham.
Ouais.
Que j'ai jamais voulu lui donner sa chance parce que je me disais que ça doit être un cliché de Origin Story.
On t'a pas on record de dire que c'était comme. Genre, t'en as-tu déjà parlé sur le show? Je me rappelle pas.
Ou on en a parlé peut-être à part.
Ah, mais peut-être.
J'ai donné sa chance, puis c'est correct.
Dans ma part, les bébés. T'as pas le droit à le nom.
Non, mais pour vrai, la première saison, super bon. C'est vraiment un bon cop show.
Mm-hmm.
Tu sais, en termes d'enquête, puis tout ça. Saison 1, c'est rond. Saison 2, ça devient un peu plus tiré par les cheveux.
OK.
Mais saison 1, c'est un solide cop show vraiment, vraiment intéressant. Fait que c'est sur Netflix, en plus. Fait que c'est facile d'accès sur Netflix. Ça vaut la peine. J'ai écouté aussi The Defenders.
Oui.
Que je me suis littéralement tapé en une journée.
Puis c'est pour ça que t'es pas préparé pour le show.
Ouais, en fond. C'est comme un gros non, mais Defenders qui.
C'est drôle, ça n'a aucun lien. Genre.
Pas en tout.
mais c'est les Defenders qui. Même si. Je trouve qu'il y a beaucoup de ces TV shows-là, les TV shows de Marvel sur Netflix, qui sont un peu moyens. C'est bon, Daredevil, c'est comme super bon. Jessica Jones, c'est super bon. Iron Fist, tout le monde est comme.
Ah non, c'est Beyond Me, là. C'est de la merde, là. Mais.
On n'est pas écouté encore.
Garde ça de même.
Ouais, bon, c'est toujours fini probablement par pareil. Là, mais...
ouais, bon, on a souvent l'impression que quand ils font des regroupements de super-héros comme ça, mais c'est comme tout plein de bonnes choses mises ensemble, ça va faire une super bonne chose.
C'est l'idée,
ouais. C'est l'idée, mais c'est rarement le cas, parce que les personnages ont souvent moins d'espace pour s'exprimer.
Là, by the way, faites-vous-en pas, là, on spoil rien, là. OK?
Non, sans aucun spoiler. Ouais,
parce que sinon, si il commence à spoiler, micro, ben c'est ça. On le varge en face à coup de pelle, quelque chose.
T'as une pelle, toi?
Toujours.
Non, mais ça, donc, sur certains points, oui, je trouve que c'est, grosso modo, si vous vous inquiétez, si ça vaut la peine de l'écouter, ça rachète Iron Fist un petit peu, mais ça vient en même temps diminuer comme toutes les autres. Ça tombe sur un genre de...
Ben, j'ai quelques épisodes d'écouter, puis la première scène, c'est avec Iron Fist, puis j'étais comme « Ah, oh, ça me tente-tu vraiment d'écouter
ouais,
ça? »
Il prend beaucoup de place. Là,
j'ai tellement souffert Iron Fist, je me suis dit « Je vais le finir, là, ça peut pas être si poche que ça. » And it was. Puis là, ça commence avec Iron Fist, j'étais comme, ah, je suis pas sûr, je suis prêt, tu sais. Mais non, là où je suis rendu, ça va bien.
Ouais. Ça doit pas être si mal si tu l'es tapé comme one shot, anyway. Là.
Moi, j'avais rien d'autre à faire, à part préparer le podcast.
Puis ça,
mais non, pour vrai, je trouve que Marvel a cette manie-là d'agglomérer ses super-héros dans le même film, dans la même franchise. C'est un peu le syndrome des Avengers.
C'est un peu le mandat, en fait, maintenant, je dirais. Là.
Probablement, mais j'ai personnellement toujours trouvé que les moments où les super-héros shinent le plus, c'est quand ils sont seuls.
Ou quand... on part à une autre discussion. Non, moi, je trouve que c'est... Je trouve que le défaut de tous les affaires de super-héros, c'est que leur histoire la plus intéressante, c'est leur genèse.
Oui, c'est vrai.
Puis tout le monde va comme oh, quand l'histoire du premier. Oui, parce que c'est la seule histoire intéressante d'un personnage.
Après ça, ils se battent contre un méchant.
Ben, d'un autre côté, Logan, mais c'était sa coche.
Je l'ai pas vu. Bon, je sais
le que film? C'est. Ben oui, mais c'est la genèse de quelqu'un d'autre, je veux
dire. C'est Passing of the Torch.
Ouais.
Non, mais c'est possiblement One in a Million. C'est qu'ils ont trouvé une bonne histoire qui existait déjà, puis ils l'ont adapté à l'écran.
Ouais, non, c'est sûr. Mais sauf c'est... que, bon.
Ouais, c'est ça. Mais moi, à mon avis, c'est ça. C'est que je trouve tout le temps que les genèses sont toujours les moments les plus intéressants parce que c'est transformatif, tu sais. C'est, ouais. Puis c'est ça, une bonne histoire. C'est quand c'est transformatif pour ton personnage. Fait que, ouais. Fait que je peux imaginer aussi que, tu sais, souvent, en fait, tangente. Mais bon, je suis pas un fan de comics, mais souvent, le monde compare ces gros Avengers-là, puis possiblement Defenders, aux annuals qu'ils font dans les comics. Mais un annual, c'est une grosse célébration de ton comic dans un gros Christie de comic que tu fais une fois par année. Ouais. C'est pas supposé d'être le meilleur. C'est un party pour ceux qui trippent. Je veux pas les excuser en disant ça, mais en le regardant de cet angle-là, c'est intéressant. C'est plus comme, viens-t'en, on va avoir du fun. Fait que je trouve que c'est un angle, mettons, qui pardonne certaines des largesses narratives qu'ils doivent prendre pour faire un melting pot.
Mais je trouve qu'en tombant au cinéma ou à la télé avec un public qui est beaucoup plus large, je trouve que ça devient une recette qui s'essouffle assez rapidement.
Ben, c'est sûr que si on regarde, mettons personnellement, je pense qu'Avengers 2, c'était moyen.
Ouais.
Defenders, on en reparlera. Mais je pense que ça vaudra une discussion à part entière un autre jour.
Ouais, parce qu'on s'étend là.
Mais pour revenir à Defenders, en fait, il y a un point que je tenais à souligner. Il n'y a pas juste des doutes sur le l'intérêt de mettre tout le monde ensemble. Là. Mais je pense que c'est important de souligner, si jamais vous l'écoutez, portez attention à la couleur
du
TV show.
C'est
l'utilisation exceptionnel. De la couleur, c'est incroyable.
Surtout dans les... Ben, en fait, je dis, dans ce que j'ai écouté à date, parce que les convidants ne sont pas immédiatement réunis, là, puis les palettes de couleurs sont immédiatement établies pour chacun des personnages, comme ils ont été dans chacun de leurs shows.
Oui, mais ça, ils ont installé une identité à chacun. On a Daredevil en rouge, on a Jessica Jones en bleu.
Maintenant,
mauve.
En bleu. Parce qu'avant, c'était de Purple Man, tout était en mauve.
Ça,
dans
surtout
Jessica
mauve.
Là, c'est bleu.
Oui, c'est vrai.
Là, c'est bleu.
Ouais, ben, Iron Fist en vert et en doré, or un petit peu. Puis on a Luke Cage qui est très, très jaune.
Ouais.
Bon, qui est la couleur qui est associée au personnage. Même l'intro du show nous les montre clairement là, avec des panneaux où on voit comme
la
silhouette
sur
fond de couleur.
De... Mm-hmm.
Ouais. Puis, mais ce qui est intéressant, tu vois, quand tu es rendu plus loin, quand ils interagissent ensemble, le réalisateur a changé son approche. Au lieu de juste souligner la couleur pour montrer qui est dans le show.
Tout brun.
C'est un beau mélange, c'est gris. Non. C'est du noir et blanc.
Et voilà. Cool.
Non, mais c'est les motifs et les motivations des personnages qui deviennent en couleur. Fait tu sais, si dans un plan, il y a Jessica Jones, puis Jessica Jones, elle parle ou elle pense à Daredevil, mais elle est sur un fond rouge. Tu sais, où il va y avoir une lumière rouge derrière elle. Où, fait que les couleurs viennent rappeler. Je lisais un article là-dessus. Puis il comparait aux bandes dessinées. C'est souvent dans une BD, mm-hmm. quand il y a les portions plus dans la tête du personnage, puis il va y avoir des couleurs en arrière-plan qui viennent souligner un peu l'émotion du personnage. Puis ils viennent ramener un petit peu cet artifice des bandes dessinées-là dans un TV show. C'est génial.
Mm-hmm. Fait que, non, c'est super parce que j'ai arrêté le milieu d'un épisode avant de venir enregistrer. Puis j'avais pas mal la même discussion avec ma copine parce qu'on avait justement une scène où il y avait deux personnages qui se parlaient. Puis on avait les couleurs opposées pour chacun des personnages à l'écran.
Ouais,
c'était.
Ah, c'est nice, j'ai hâte de tomber dedans.
Non, c'est super cool. Même la musique aussi. C'est Iron Fist qui se bat tout seul. Puis quand Luke Cage débarque, il y a du gros hip-hop.
Bon, fait qu'on va juste couper ce bout-là. On va le sacrer dans un autre show pour une causeuse.
Une causeuse de fête.
Fait que ouais, fait que Defenders, écoutez ça, ça vaut la peine. Puis vous nous partagez vos opinions sur les gangs de super-héros.
T'en as encore!
Un dernier point, une découverte que ma blonde m'a fait découvrir cette semaine, qui s'appelle c'est un podcast en anglais.
On n'aime pas ça les podcasts, nous autres, non, on ne connaît pas ça.
Mais c'est un podcast en anglais qui s'appelle My Dad Wrote a Porno.
Nice!
C'est malade. La prémisse du podcast, c'est que le. Yes, Il y en a de ça, mur à mur.
J'achète. C'est gratis. J'achète pareil.
La prémisse, c'est que l'autre, celui qui lead ce podcast-là, son père, qui a la soixantaine, a décidé dans ses passe-temps d'écrire un porno qu'on peut se procurer sur Amazon ou iTunes.
Oh, nice.
Et lui et deux de ses amis d'enfance, à chaque épisode, lisent un chapitre et commentent au fur et à mesure.
Ah,
c'est
tellement avoir fait vendre de livres à son père. Là.
C'est littéralement mourant. Nous sommes rendus à 3 saisons.
C'est le même livre?
Je pense rendu que son père y écrit pour le show.
Ah, nice!
Mais c'est hilarant, c'est se rouler par terre, c'est incroyable. Fait que les épisodes varient de longueur.
C'est pas pire quand même quand tu l'écoutes dans le métro, mais dans ton char, je le conseille peut-être moins.
Se rouler par terre, c'est plus dangereux un petit peu. Ou aucun char, ça roule par terre. Ok.
T'as plus le droit de déraper.
Non, c'est bon. Fait que non, My Dad Wrote a Porno. Ça, si vous cherchez un petit podcast pour le commute au travail.
On va m'entendre.
On vous conseille les écouteurs.
Ouais, fait que le personnage s'appelle Belinda. Et si jamais vous voulez chercher le livre en question de son père, son père écrit sous le nom de plume Rocky Flintstones sur Amazon. Cherchez ça, ça vaut la peine.
Merci.
Ça fait plaisir.
Ouais, okay, ben oui, faut quand même faire les nouvelles. T'sais. Après ça, le show n'est pas fini. Là. On s'excuse. Alors, le site de nouvelles de eSport, slingshotesports.com, pas que je vous le suggère, là. C'est juste là que ça se trouvait, nous rapportait qu'un joueur professionnel de League of Legends de l'équipe Newbie, c'est N-E-W-B-E-E, connu sous le pseudonyme de Vassili, avait dû passer au grand moyen pour maintenir son niveau de performance. Après avoir été benché par son équipe lors du League of Legends Pro League Summer Split, demande-moi pas ça consiste en quoi, j'en ai aucune espèce d'idée, il a répondu à ses fans qu'il faisait maintenant vœu d'abstinence, car, et je cite, « indulger dans les plaisirs sensuels nuisait à sa performance ».
Oh my God.
Moi, j'aurais rattrapé le porno base perso, là, mais...
Merci. C'est ce genre de gars-là qui, rendu à 60 ans, il écrit un porno.
Tout ce temps-là que j'ai perdu. Mais malheureusement, l'article ne nous dit pas s'il était question de plaisir solitaire et sinon, si l'abstinence était volontaire. Mais bon, hein, bonne chance à notre petit Vaseline, Vassili, je veux dire. Vassili. Alors, toujours à l'affût des nouvelles d'importance nationale et internationale, CNN nous rapportait qu'une étude financée par l'Université d'Amsterdam, publiée dans le Social Psychology and Personality Science, intitulée, je vais traduire, « La première investigation systémique de l'effet des smileys sur la transformation d'une première impression dans un contexte de travail. » Hein? Merci. Alors, Ella Glickson, co-auteur de l'étude, disait être très optimiste à propos du pouvoir positif des émoticônes. Mais nos résultats initiaux m'ont beaucoup surpris, ajoutait-elle. Car, croyez-le ou non, mettre un smiley dans un premier courriel à un collègue ou un client pourrait vous faire passer pour un incompétent. L'étude, par contre, ne quantifie pas l'opinion engendrée par l'utilisation de l'emoji, de l'aubergine ou du petit tas de marde. J'avais donc présumé que c'est safe et vous suggérez de les insérer aussi souvent que possible quand vous envoyez des courriels à vos patrons.
Est-ce qu'il parlait des gifs animés dans ça?
Non.
Nice.
Ben, c'est un petit tas de marde animé, mettons, ou une aubergine animée, je pense que tu peux utiliser en toute sécurité.
En général.
Et en passant, on tient à préciser que Divan Quest n'est pas responsable de toutes les conséquences engendrées par l'application d'une de ces suggestions crissement épaisse. Utilisez les tas de marde et les aubergines dans votre vie professionnelle avec précaution. Et finalement, encore CNN, qui ont le doigt...
Tu trouves des news dans du média mainstream.
Quand ils sont savoureuses de même, pourquoi s'en priver? Et finalement, CNN encore le doigt sur les choses importantes du monde. Mais je les remercie et je vais directement au but. Il y a un championnat du monde de Microsoft Office.
Pardon?
Le 7 août dernier, CNN publiait une entrevue avec John Dumoulin, étudiant de 17 ans et champion du monde de Excel en 2016.
Nice!
C'était la première fois que le champion de
Excel... Une ceinture, une couronne, une bague?
Trophée. C'était la première fois que le champion de Excel était un Américain depuis la création de l'événement. Fait que, tu sais, là, c'est rendu des nouvelles pour CNN. C'est Merca, yeah. Il a donc fini au sommet devant les 560 000 candidats qui s'étaient inscrits.
Bon.
Si vous vous demandez comment ça se passe, un tournoi de Excel, ben, je suis crissement sûr que vous le demandez, là, à vrai dire. Chaque participant a 50 minutes pour montrer ses prouesses dans l'événement de son choix. Donc, on a un tournoi pour Word, Excel et PowerPoint. Il y a 6 catégories pour différencier les niveaux de participants. Et ils sont libres d'utiliser la version 2013 ou 2016 des logiciels pour chacune des épreuves. Dans le cas de la compétition Excel, les participants doivent reproduire un classeur donné le plus précisément et bien sûr rapidement possible. Monsieur Dumoulin est donc parti avec 10 000 $ une médaille et une Xbox One. Ça reste Microsoft.
Il y a Excel dessus?
Ça me semble, je me suis dit la même chose. J'étais comme la seule petite plateforme de Microsoft qui n'a aucune variante d'Office.
fait que c'est vraiment endossé par Microsoft. C'est organisé par Microsoft.
C'est organisé par une compagnie qui offre des certifications d'Office. Il faut que tu aies obtenu déjà une certification pour pouvoir participer.
Mais tu sais, moi, je participerais pas à ça juste parce que j'aurais trop peur que toutes mes matantes me demandent ça de l'aide. je reste au profile, c'est trop dangereux.
Là, j'ai mis des chiffres, c'est tout devenu des petits dièses.
Tu peux te faire additionner mes deux colonnes?
Fait que, dans le fond, c'est juste être pro de la mise en forme dans ce logiciel-là.
On parle d'Office, on parle de calcul. Là,
mais
Excel,
il fallait reproduire.
Ouais, mais donc avec les calculs, avec toutes les colonnes, avec tout ce que le classeur fait. Donc il y a des formules là-dedans, là. Il y a des opérations.
Ouais, non, j'ai vraiment failli. Mais il copie à partir de quoi?
Ah, c'est une bonne question. Malheureusement, je ne travaille pas pour CNN. Je ne suis pas une source de nouvelles crédible. Eux non plus, malgré. Mais par contre, j'ai tenté de contacter là, M. Dumoulin, mais il n'a pas pu commenter si ses prouesses lui ont demandé de faire vœu d'abstinence. Et si depuis sa victoire, si ses prouesses au classeur lui ont demandé de repousser des avances de tous côtés. Mais je te tiens au courant personnellement, JF, voir si jamais tu peux...
Tu pourrais participer.
Et ne plus savoir où donner de la tête et de l'autre tête à cause de tes prouesses en Excel.
Là, pour les habitués de notre pacing habituel, on est en train de tester différents ordres pour nos segments. C'est pour ça que je parle pas à la fin, mais au début.
Voilà.
C'est ça. Ben oui, j'en ai déjà parlé ici, dans le fond, avec ma blonde. On aime ça quand même beaucoup jouer à des jeux ensemble, mais elle n'est pas fan de tous les styles de jeux. T'sais, c'est pas avec elle que je vais faire un tournoi de Street Fighter 2 Ultra Turbo sur la SNES. Là.
Ben, ce serait weird que tu fasses un tournoi là, avec quelqu'un qui n'aime pas jouer à ce jeu-là.
Ben,
À deux. Et comme tu as vraiment tant besoin d'une victoire dans ta vie, Dan, ça va si mal que ça que tu veux me quitter, ça me va aller virtuellement. Oui, Dan.
Bref. On est souvent en train de chercher, dans le fond, des affaires qui vont nous tenter à jouer ensemble. Des jeux coopératifs, des jeux non-violents. Puis ça prend aussi un look qui va attirer son attention. Tu sais, pas qu'elle est si difficile, mais bon, tu sais, faut que ça ait le goût de jouer. Un jeu rétro, 8-bit, va moins l'intéresser.
Faut que ça soit Candy Crush.
Non, vraiment pas.
Non,
okay.
elle est plus genre Dark Souls, BF3.
Ouais. C'est pas de frag.
Ça peut pas avoir son kill death ratio à fin de la game à 100.
Monster kill!
Je préfère qu'on parle pas de kill death ratio, sinon je vais reparler de PUBG et je vais pleurer un peu. Ben c'est ça. Fait que quand j'ai vu passer le jeu dont je vous parle cette semaine, il y a une couple de semaines de ça, dans le e-store sur la Switch, ben je savais que je tenais quelque chose d'important là, pour notre vie de couple.
Ta graine?
Oui.
Okay,
ça m'arrive souvent sur le e-store.
Je la tenais.
Sur la Switch, c'est pas grande, là, je peux la tenir d'une main. Puis... C'est ça.
S'il te plaît, continue.
Fait qu'on a joué à Overcooked. pour ceux qui connaissent pas Overcooked, c'est un jeu de simulation de cuisine. Parce que les guillemets sont importants. Là. Développé par Ghost Town Games, qui ont fait juste ça, puis publié par Team 17,
ouais.
Qu'on connaît pour plein de jeux, mais surtout les Worms. Là.
Worms.
Ben, avant, par contre, ils faisaient juste développer, là, ils commencent à publier beaucoup d'autres développeurs.
Sorti le jeu sur la Switch le 27 juillet dernier. Ça faisait pratiquement un an qu'il était sorti sur PC, sur PS4, sur Xbox One, genre 3 août, je pense, si je me rappelle bien les dates. C'est quoi Overcooked? Ben, c'est un jeu de cuisine coopératif dans lequel les joueurs là, de 2 à 4 sur cette version-là vont devoir coopérer pour préparer différents repas dans des cuisines de restaurants. Dans le fond...
Ça semble assez normal comme jeu.
Oui, mais ce n'est pas le cas.
Tu te prépares à retourner à l'école, hein?
Ouais. Ouais. Ben c'est ça. Le jeu commence, puis le monde est sur le point d'être détruit par une créature assez gigantesque qui ressemble étrangement au Flying Spaghetti Monster.
Jamais le Flying Spaghetti Monster nous ferait ça.
Non.
C'est un dieu
bénévolent.
C'est
parce qu'il faut le nourrir.
Ah, ben oui.
Il faut le nourrir de salade, là, puis ben on n'y arrive pas.
Tout le monde sait ça.
On n'arrive pas à calmer la faim du monstre. Pis,
fait que c'est ça le jeu. C'est pas tu nourris sur un monstre.
Ben ça, c'est le premier, c'est le début du jeu, là.
Okay. C'est le premier tableau.
Je te raconte l'histoire, man, parce qu'il y a une histoire dans Overcooked.
OK.
essaye de suivre GF.
Ouais. Fait qu'on n'arrive pas à le sauver. Fait que pour réussir à sauver le monde, le roi Oignon, qui est un gros oignon là, avec une couronne.
C'est pas lui qui enseignait à Parappa.
Ah, c'est peut-être dans la même famille, faudrait voir. Faudrait investiguer.
Regardez l'arbre généalogique, la racine généalogique, là, je ne sais pas comment ça se passe, les oignons. Là.
La tige généalogique, c'est un oignon. La tige.
Lui, aucune quand... chance de te rendre à la fin de ta vie.
Lui, quand c'est ton boss, peux-tu mettre des aubergines dans tes courriels?
Mm. Je pense que oui. Il apprécie.
Mais t'es mieux de. Si tu promets une aubergine, t'es mieux de livrer une aubergine. If you know what I mean. C'est pas de marde.
Donc, le roi oignon nous fait revenir dans le temps pour qu'on puisse réussir à pratiquer notre cuisine puis à devenir des maîtres cuisiniers pour réussir à sauver le monde quand. En revenant, en retournant mm-hmm. à cette époque-là, on réussit à battre
le monde. Ça n'aiderait pas, genre, juste de t'envoyer dans le temps pour que tu préviennes qu'il arrive?
D'autres, je sais pas.
OK, excuse.
Puis, au niveau de l'histoire, je vais pas mal arrêter là parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Puis, c'est pas ça le point central du jeu. Mais je trouve quand même ça le fun qu'il y a une petite histoire de même un peu funky puis pas super utile. Puis, dans le fond, après certains tableaux, tu reparles avec le roi oignon puis il dit, ah, t'es rendu en telle date. Genre, là, je pense qu'on est rendu en 1999, puis j'oublie c'est quoi les dates, là, mais tu sais, c'est juste un peu drôle. Fait que tu te retrouves dans le passé, dans une petite minivan, dans le fond, sur un genre de world map, où est-ce que tu te promènes d'un tableau à l'autre.
Dans une grosse boîte à caresses. Une minivan.
Ah oui.
Oui.
J'avais jamais entendu
ça. Non, ça me fait plaisir.
Mon Dieu. Ouais, ouais. Pourtant, Saint-Félix.
Il en manque pas de ça.
Une minivan, c'est de ce genre-là, sont barrés de mon vocabulaire. Ça n'existe pas dans mon univers. Moi, sinon, il faut que j'appelle la police.
Voilà. Okay. C'est pour ça qu'il ne va pas souvent au marché aux puces. Dis-toi.
Fait qu'on se retrouve sur notre map. On doit se promener d'une cuisine à l'autre, finalement, pour faire assez d'argent pour passer d'un niveau à l'autre. Chaque niveau est une cuisine différente qui va apporter des modifications au gameplay. Là, j'y arrive. Dans le fond, chacun de nos levels a un classique système de 3 étoiles là, qui dans le fond, selon le nombre de commandes qu'on a sorties dans notre cuisine, puis de la rapidité, on gagne plus de points, puis selon les points, on a des étoiles. Dans le fond, ça prend une étoile pour pouvoir aller au tableau suivant. Sauf que, ben, tu sais, je pense qu'après un certain temps, si t'as pas un nombre total d'étoiles, il y a certains niveaux que tu pourras pas accéder.
T'as une gate qui te prend tant d'étoiles voilà. totales pour avancer.
J'ai jamais vraiment remarqué à quel point ça gateait parce que je joue avec quelqu'un qui est plus freak que moi que d'avoir les 3 étoiles dans chaque tableau.
C'est typiquement un comportement de non-gamer. Hein? Leur OCD ressort sur un fucking tank quand c'est comme « Ça me prend toutes les étoiles. »« Ça me prend toutes les étoiles. »« Donne-moi les étoiles. »
Mais c'est ça. Fait que les 3 étoiles sont... pas tout le temps évidente à avoir. Tu sais, la 2 étoiles se fait assez bien. La 3 étoiles, des fois, ben il faut que tu prennes un break puis que tu vraiment réfléchisses à ton tableau comme un puzzle pour réussir à optimiser ton affaire. C'est pas mal ça le fluff qu'il y a autour du gameplay puis comment ça se passe dans les tableaux. C'est ça qui fait que ce jeu-là est intéressant puis j'en parle. Là. Tu sais, l'histoire est cute et comique là, puis le système de 3 étoiles, c'est assez classique que c'est pas une innovation en soi. Mais c'est ce qui se passe dans les tableaux qui fait qu'il y a quelque chose de spécial. Dans le fond, chaque tableau, on a des commandes à sortir. Là. Au début, c'est des soupes, à un moment donné, on a des burgers puis je pense qu'on est rendu avec des fish and chips où est-ce qu'on est rendu.
Nice.
Faut préparer les ingrédients, faut faire cuire la bouffe, faut monter les assiettes, faut envoyer les assiettes, faut laver la vaisselle. Bref, on fait de la job de cuisine. Le problème, c'est que nos lieux physiques sont loin d'être une cuisine traditionnelle et classique. Là. Dans le fond, des fois, il va y avoir des comptoirs qui sont dans nos jambes pour nous empêcher ou nous ralentir dans nos déplacements. Puis comme il y a un certain temps limité, ben, ça nous bloque un petit peu. Donc, c'est là que tu te mets à jouer au jeu de « je te donne une tomate, tu la coupes, tu me la redonnes, je la mets dans le chaudron. Quand la soupe est prête, je te donne le bol de soupe pour que tu le sortes de la cuisine. Puis en même temps, ramène-moi la vaisselle sale pour que je la lave parce que si on n'a plus d'assiette, on ne peut pas sortir de la nouvelle soupe. T'sais.
Qu'est-ce qu'ils disent? Tout peut être un jeu, ça dépend juste du mindset avec lequel tu l'approches.
C'est tellement ça. Là.
Tu parlais pas qu'aujourd'hui, tu étais dans le ménage, faire de ça à temps. Oh, tout ce que tu as fait de la semaine, c'est faire le ménage, faire la vaisselle, puis cuisiner.
C'est ça.
Puis couper des tomates.
Voilà, chacun ses passe-temps.
C'est ça. Fait que c'est vraiment ça l'élément central du jeu, c'est les cuisines qu'on a à travailler puis qui vont nous forcer, nous obliger à coopérer. T'sais. Deux, trois exemples. Il y a une des cuisines qui est deux camions qui sont sur l'autoroute. L'affaire, c'est qu'ils sont pas comme tout le temps à côté de l'autre. Ils vont comme varier de avant en arrière. Fait que t'as comme les frigos d'un côté, les planches à découper sont sur l'autre, genre les poêles pour faire que la bouffe. Fait que là, ben, t'es dans ton bar, t'as des camions, tu prépares de la bouffe. Quand les deux camions sont proches, tu switches les affaires de bar, genre tu piches les tomates quasiment à l'autre pour qu'ils coupent.
Puis t'as Gordon qui passe dans un char puis qui pète sa coche.
C'est vraiment un jeu à ne pas jouer pour les gens du MAPAC, là, du ministère de l'Agriculture et des Pêches, parce que la bouffe, on la sac à terre, on réutilise des plaques, contamination croisée à côté.
Il y a quelqu'un qui a mal compris le principe d'un food truck.
Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas un rimshot. Sur le...
non, c'est un foin, 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 foin.
Ouais, c'est ça. C'est... on peut te faire quelque chose sûrement. Peu importe. Ben voilà, fait que ça, c'est en était un avec les camions. Une autre cuisine, dans le fond, qui est comme complètement splittée en deux par un mur. Fait qu'on n'a pas de contact direct. Mais il y a un tapis roulant qui fait le tour. Fait que là, ben c'est comme, je vais te donner de la viande. C'est des burgers qu'il faut faire. Fait que genre, j'étais du côté des frigos. Je pogne la viande, je la mets sur le tapis roulant. Elle a la coupe, elle m'ardonne parce que les poils sont de mon bord. Après ça, il faut que j'assemble comme une partie de burger. Je mets ça dans une assiette, je mets ça dessus. Puis elle, elle a les légumes de son bord. Puis, c'est quand même assez chaotique assez rapidement, là. Dans le fond, c'est là que le côté coop va vraiment prendre tout son sens. J'ai pas pu essayer le jeu à 3 ou 4, mais ça doit être tellement chaotique, puis assez hilarant. Je prends beaucoup plus difficile, même à plus de joueurs. Là.
Ça exige la communication. Là.
Ben, à 2, ça en exige déjà énormément. Fait qu'à 3 ou 4, ça doit être un cluster truck, comme tu avais déjà fait ta review. Un cluster fuck monumental, mais ça doit être quand même très drôle, puis probablement assez amusant. Tu sais, dans le fond, le chaos est là quand on est à deux. Là. Je donne un exemple. Dans un des premiers tableaux, on n'était pas encore très, très habitué. Ma blonde s'est énervée. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle avait à faire. Puis là, elle a oublié d'enlever la choupe dessus le chaudron.
Puis là, ben là, pendant ce temps-là, je ne jouais pas. Parce que... Ah, dans le jeu, c'est pas
dans le jeu.
Okay, c'est correct. C'est une joke de femme dans une cuisine. Ça passe très bien, ça.
C'est tu vois ma réaction.
Oui,
fait que, elle s'est énervée dans, je hein, dans le jeu. Puis elle faisait pas ce qu'elle avait à faire dans le jeu. Puis... fait qu'elle a comme droppé. Elle a oublié le chaudron sur le feu. Puis là, on s'entend, là, c'est un chaudron de soupe aux tomates. Il a pogné en feu. Puis là, ben, le feu se propage dans ta cuisine. Puis il faut que tu l'éteignes. Fait qu'elle s'est tellement énervée dans le jeu que le feu a pogné. C'est rendu un running gag chez nous. Quand elle fait quelque chose, j'attends pas de crisser le feu en faisant de la soupe.
c'est un risque très réel.
Oui. on peut jouer aussi tout seul. Ça se fait, le jeu est fait pour qu'on puisse jouer en solo. Dans le fond, c'est loin d'être le même fun. On contrôle deux personnages qu'on peut switcher d'un à l'autre. Fait que, tu sais, tu pars une action pendant qu'elle tu switches le personnage. Ça devient beaucoup plus puzzle, puis il n'y a vraiment pas le fun du jeu coop qui est vraiment le côté central de ce jeu-là. Là.
T'as personne que tu peux blâmer pour tes échecs.
Ben, c'est ça. C'est beaucoup moins le fun que d'essayer de communiquer en stressant sur le temps, puis en se gueulant un après l'autre de couper. Genre, parce qu'elle a pas coupé la viande au complet avant de te l'envoyer, fait que tu peux pas faire un cuir, fait que faut que tu renvoies sa viande hachée, pas tout hachée, puis qu'il reste ta viande est même pas coupée comme faux!
comme si on avait pas assez d'occasion de se pogner dans la vraie vie.
Ben, puis dans la cuisine en plus.
Je sais pas, tu sais, ça reste dans un jeu, fait qu'on a du fun pareil.
Tout est dans le. C'est ça. Tout voilà. Dans l'attitude avec la
caméra. C'est un peu comme une thérapie de cook.
C'est ça, c'est ça.
Non, c'est une thérapie de cook.
Oh!
Il
est où le rimshot?
Applaudis, toi! Ah ouais, c'est une erreur!
C'est tellement meilleur qu'un rimshot!
Il y a aussi un mode compétitif dans le fond dans le jeu où est-ce qu'on est chacun dans une cuisine complètement séparée, qu'on contrôle chacun deux personnages puis qu'on essaie de sortir le plus de cuisine possible.
Qui doit se jouer de 2v2 aussi, je suppose?
C'est probablement. Mm-hmm. Étant donné que j'ai pas quatre amis.
Genre, si t'as pas quatre amis, tu pourrais pas jouer.
Non.
Ça se joue à 4.
C'est ça, ben je laisserai jouer, c'est mes amis.
Oh, t'es cute.
Ouais, c'est ça.
Oui.
J'ai pas essayé. Je sais pas. dans le fond, c'est un peu le mode party game parce que l'autre mode, c'est vraiment un genre de campagne. C'est pas tant pour l'histoire là, que tu suives que pour le niveau de complexité qui augmente d'un tableau à l'autre. Mais ce niveau-là est facile à comprendre. Puis, tu sais, je pense que dans un genre de party game, ça peut s'expliquer bien puis se jouer assez facilement. Puis, ça doit être aussi très, très drôle. Dans le fond, c'est un petit bijou pour vrai, ce jeu-là. Il a reçu 3 prix l'année passée quand il est sorti, là, dont meilleur jeu familial des British Academy Awards Game, quelque chose comme ça, là, avec un paquet de nominations. Donc, c'est vraiment un jeu qui a été très, très bien reçu par les critiques. Mais pour vous convaincre, c'est pas les nominations puis les prix que je garde en tête. C'est ma blonde qui est tellement crampée sur le divan, mais en même temps tellement concentrée sur le jeu qu'il y a des grosses larmes qui coulent des yeux puis qu'elle essaie de se concentrer encore pour pas lâcher le jeu. C'est de toute beauté. Je termine en disant que même si on prend pas tellement le temps de l'écouter dans le jeu, la musique est vraiment nice. Pour vrai, elle vaut la peine d'être écoutée. Puis elle est juste assez présente pour meubler en arrière-plan, puis sans trop nous empêcher de communiquer. T'sais. Mais il y a le côté aussi quand il reste 30 secondes, genre qu'elle accélère pour nous le dire. Fait que quand même cool. Ça fait un bout. J'ai décidé de choisir 2 petits extraits puis de se garder.
On est dû.
Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de musique de jeu. Fait que le premier extrait, c'est le menu, principalement. Menu puis la world map, je pense que c'est le même. Euh, Deuxième extrait, c'est un des extraits qui est dans les tableaux. Je pense qu'il fait comme une grosse bunch des premiers tableaux. Ça change peut-être, mais la musique est souvent la même. Là. Elle n'est pas très variée, pas beaucoup de variations, mais quand même. Que je trouve ça intéressant de voir la musique qui se complexifie à mesure que le temps avance. Là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est cette musique-là qui t'accompagne, puis tu l'aimes quand même, tu l'apprécies.
Il est temps qu'on ait le show en vidéo.
Vraiment, parce que.
Hein, parce que les deux moves de danse dedans. Du côté manouche.
Évidemment.
Fait que, bref, si vous avez envie d'un jeu coopératif non violent, quand même assez simple au niveau des contrôles, il y a comme trois pitons. Tu as un bouton pour prendre les aliments, les déposer, un bouton pour faire des actions sur tes aliments. Puis un bouton pour faire des petits sprints dans la cuisine. Là.
Nice.
C'est quand même nice. Puis là, tu te prends dedans. Puis
mais tu dis non-violent. Est-ce que le PETA est d'accord avec cette affirmation? Est-ce que le People for Ethical Treatment of Animals a approuvé de la non-violence de ton jeu? Ils ont tapé sur la tête des Cooking Mama, tu sais.
Ah, ben probablement pas dans ce cas-là. Mais par contre, on peut parler, par exemple, de diversité au niveau des personnages. Parce que oui, tu peux choisir ton cook. Puis il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des chats. Puis moi, dernièrement, je joue avec un raton. Je joue avec un raton laveur qui est en chaise roulante, là.
Sac, ça c'est de la diversité hein? Comme on en voit rarement.
Voilà. Mais j'imagine qu'on va en débarrer d'autres, mais il y a quand même. C'est le fun, le choix est assez grand. Bref, c'est facile quand même d'apprendre à comprendre comment le jeu va fonctionner pour faire jouer avec n'importe qui. Fait que ça donne une expérience de jeu très très amusante. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Là. Par contre, c'est t'as gardé en tête là, puis je vais citer John ici là, qui était comme en commentaire sur YouTube.
Oui.
Les derniers 30 secondes de chaque tableau sont le moment où ta relation avec ta douce moitié est réellement mise à l'épreuve. Ça garde un autre warning comme tantôt tu donnais pour.
Ouais, pour les conseils qu'on donne ici à Divan Quest.
Donc je vais donner à Jeff un tronc d'arbre qui va le couper en quatre bûches, qui va le donner à Matt pour qu'il l'installe sur son tour puis faire des pattes de divan, puis que lui va me donner pour que je les installe sur notre divan pour remplacer nos ouïas pour. Le jeu.
Mais faut que j'en fasse combien de paires de divins?
4.
Yes!
Epsa Zimsa Zagade. Zelka Boop.
Nos auditeurs les plus fidèles remarqueront que c'était la seule fois qu'on a utilisé ce drop-là, c'était le thème pour l'entrevue qu'on a eu avec 2PM, avec Steve de 2PM. Bon, on le recycle pour finalement avoir un thème pour nos conversations.
Nous sommes verts à Divan Quest.
Il
paraît sûr.
Il me semble qu'il marche bien.
Oui, quand même. Puis on va parler mieux, on va être plus compréhensible dans nos paroles que...
Que Animal Crossing, si peu. Quand même, si peu. Cette semaine, pour la conversation, on a vu passer dans les sites de nouvelles de jeux l'annonce de la nouvelle, de l'update majeur
ouais.
de No Man's Sky du nom de...
Atlas Rises.
Voilà. Et ça nous a comme ramené d'en face le perpétuel débat sur les jeux qui sortent pas finis. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'une mise à jour peut faire pour mm-hmm. un jeu qui pourrait avoir eu des difficultés, mettons, pour être poli avec Hello Games dans le cas de No Man's Sky.
Ben, je pense que c'est peut-être important de se rappeler qu'est-ce qu'on pensait de No Man's Sky la dernière fois.
Je pense pas que grand monde va avoir oublié, mais...
Mais ça fait longtemps.
Ça a déplacé assez d'heures pour qu'on s'en fasse.
Fond, ce jeu-là qui est sorti très, très incomplet, qui avait beaucoup de contenu qui était manquant, puis que pour la grandeur du jeu qu'il y avait, il y avait très peu de choses à faire.
Puis qui avait beaucoup... qui avait généré beaucoup d'attentes,
oui.
qui n'avait pas ouais. nié. Puis quand le jeu est sorti, il n'était pas là, quand ça aurait été tellement simple de dire « Non, c'est pas ça. » Fait qu'il y avait vraiment comme une surenchère de future.
Il n'a pas répondu aux attentes qu'il a lui-même... comme
laisser vivre, ouais. mettons. Ouais, bref, il a fait un Peter Molyneux de lui-même. Il a molyneué la hype de son jeu. Pour ceux qui connaissent les cycles de hype qu'on a connus avec Fable et autres jeux de M. Molyneux, ben, c'est carrément ça. Sean Murray est devenu le Peter Molyneux de cette génération-là.
Ouais, le jeu a été mal reçu par les critiques, par les joueurs. S'est fait démolir.
Et possiblement un peu à tort. Parce que tout le monde attendait un autre jeu qu'est-ce qui est sorti.
Ouais. Je pense qu'il faut lever notre chapeau à l'équipe qui travaille sur ce jeu-là, d'avoir, malgré la mauvaise publicité, malgré il y a eu de la pression, là, ça l'a brassé, puis sur les réseaux sociaux, ça n'a pas dû être des quelques semaines agréables pour Sean Murray en tant que tel, mais même pour le reste de l'équipe.
Ben, ils ont fait Radio Silence.
Exactement. Ils sont partis, puis ils ont continué à travailler.
Ouais.
Puis, ce qui me donne l'impression aujourd'hui avec la patch 1.3, qui est Atlas Rises, que ce jeu-là, finalement, c'était un peu comme les Green Light Games,
les
Early Access Games. Dans le fond, ça n'a pas été commercialisé comme ça, mais c'est un petit peu ce qu'on a eu.
Mais ça aurait peut-être... Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ta comparaison quand même,
mais c'était pas une possibilité pour eux autres parce que la hype machine était longuement enclenchée, ouais. Les précommandes, les deals avec Sony.
Oh, oui.
Bon, ils n'étaient pas dans l'état de dire on sort un jeu en développement.
Non, mais en mettant dans cette perspective-là, c'est quand même mm-hmm. C'est pas ce qu'ils ont fait, mais... Ça donne un beau comparatif.
Ouais. Ouais. Fait cette patch-là, en fait, là, qui est sortie au courant de la semaine dernière avant qu'on enregistre, fait qu'autour du...
Bon, au milieu du mois, là.
Début août, mi-août. Mi-août. Puis qui venait avec cette patch-là, énormément de contenu. Par exemple, il y avait déjà eu une mise à jour un petit peu plus tôt dans l'année qui avait corrigé beaucoup de bugs puis qui avait ajouté, entre autres, beaucoup plus de bâtiments, de diversité. Ah. Il y avait la notion que tu peux avoir une base à toi. Qui avait commencé à être amené, puis il y avait les freighters qui étaient totalement absents du jeu original, où dire que j'ai énormément de minerais, de matériaux, puis mon vaisseau est tout petit, puis il avait promis qu'on allait pouvoir piloter des vaisseaux intergalactiques géants. C'est arrivé dans une page précédente. Ça, c'était déjà là, fait qu'il y avait déjà un jeu un peu plus développé, mais qui est quand même, il n'y a pas grand chose à faire dans ce jeu-là. Et avec la mise à jour qu'il y a là, ben, j'avais comparé, c'était un océan, mais creux comme une flaque d'eau, mais on a approfondi la flaque d'eau. Significativement.
Fait que c'est quand même un petit lac.
Un petit lac, un étang, ouais.
Un étang aussi. No Man's étang.
Avec la mise à jour, je l'ai réinstallé. Puis maintenant, on peut jouer. Il y a le mode normal, il y a un mode survie, puis un mode où tu as une seule vie. Finalement. C'est survie, mais.
Le hardcore. Là.
Hardcore mode. Donc, si tu meurs, c'est terminé. Fait que je me suis dit, je vais donner à No Man's Sky le temps d'une seule vie à hardcore pour le revisiter. Fait que ça a été court. Parce que je ne me rappelais plus vraiment comment ça fonctionnait. C'était difficile quand même. Mais j'ai quand même pu constater qu'il y a beaucoup plus de diversité dans les planètes. Depuis la mise à jour, là, avant où toutes les planètes se ressemblaient un petit peu. Il y en avait une bleue, une verte, une rouge, mais finalement...
une fuchsia. À part la couleur. Ah,
mais beaucoup plus de diversité. Beaucoup plus de diversité dans la flore, la faune, tout ça.
Parce qu'il y a toujours la tout ça. La tout ça versité.
La
tout ça versité.
Il y a toujours eu le concept des biomes exotiques. Qu'une planète pouvait avoir comme quelque chose qui était complètement différent du reste, mais c'était excessivement rare. Là, ils ont vraiment bumpé significativement les chances de frapper une planète exotique.
Plus qu'on a eu comme ça, plus de technologies disponibles aussi. Donc, où avant, tu avais ton genre de laser qui pouvait soit faire miner ou attaquer. Là, ils ont ajouté tout plein d'autres modifications que tu peux faire à ça. Fait que le jeu gagne en profondeur, autant en termes de l'univers que tu explores, mais autant au niveau des moyens que tu as pour l'explorer. Fait que ça commence à être plus complet. Là. Ça commence à être intéressant.
Mon Dieu, non. Non, pas du multijoueur. Pas du kind of multijoueur avec des boules de lumière qui représentent des joueurs.
Une forme multijoueur. Donc, j'ai pas expérimenté, mais ce que j'ai cru en comprendre, c'est que si tu es au même endroit qu'un autre joueur, il va apparaître comme une petite boule de lumière là où son joueur est, puis tu peux interagir de façon assez
sommaire
et minimaliste avec lui.
Mais c'est ce que le monde s'attendait au début, c'est juste comme... « Ah, ben je vais avoir comme une plaque quand quelqu'un est passé ou je vais pouvoir comme communiquer de façon abstraite. »
Ah oui.
Ça a pris... C'est quoi la date de sortie de ça?
Ah, oh, je me souviens pas.
En tout cas, ça a pris beaucoup trop longtemps avant qu'on arrive...
Un an, là, c'est l'été dernier. Fait que...
Bon, ça a pris un an avant qu'on arrive au baseline de ce que c'est d'avoir dit « Il n'y a pas du multijoueur en soi, mais kind of... »
Oh oui, genre tu croises quelqu'un.
Ça a pris un an. T'sais, quand tu arrêtes juste de dire « Non, mais on travaille là-dessus dans l'avenir. »
Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est là comme... qui arrive l'élément de discussion, c'est que ce que tu annonces ou ce que tu nies pas, ben ça devient de la hype, puis fais attention, ça peut être dangereux.
No Man's Sky peut être un case study, on pourrait avoir 30 discussions différentes sur ce qu'on peut apprendre de No Man's Sky, puis ce que ça a quand même bien fait, mais qui a été noyé dans le discours là, négatif.
T'sais, quand il te manque juste 2-3 patentes, mettons qu'il avait manqué 2-3 des affaires qui avaient été hypées, ça peut devenir un running gag, puis c'est pas la fin du monde. Mais quand il en manque beaucoup, c'est là que les gens. Je prends un exemple, mettons, dans un jeu que je connais qui a été patché souvent, là, World of Warcraft. Ouais. Dans Wrath of the Lich King, sur la boîte, c'est des gens qui ont la boîte, ils parlent dedans qu'il y a du dogfighting en avion, puis un dance studio, tu sais. Mais c'est rendu un mime, là, parce que ça n'a pas été comme shippé, puis ils l'ont même jamais développé. Le dogfighting, c'était trop compliqué, ça faisait lag à côté, puis c'était pas intéressant. Puis le dance studio, c'était comme une affaire de développement intense que finalement, ça n'aurait pas été intéressant. Ça a été scrappé. Ça devient un running gag parce que il l'avait annoncé, c'était sur les boîtes, mais il y avait du contenu nouveau pareil. Puis c'est pas du contenu.
Puis il n'y a personne qui achetait le jeu pour ces deux features.
Mais non, c'est ça. Fait que c'est rendu un gag, c'est un meme, puis c'est drôle parce que les joueurs ont eu d'autres contenus. Puis c'est pas l'affaire la plus hypée du jeu non plus. Tandis que là, tu sais, c'est parce qu'il manquait beaucoup de choses que les gens s'attendaient à voir. À raison ou à tort, là, on s'entend. Là, mais...
Je pense que ce qui est plus intéressant pour le même point, c'est-à-dire de ce qu'ils n'ont pas livré par rapport à ce que le monde croyait recevoir, c'est comment tu peux créer de la hype sur un jeu en reposant sur le mystère.
Ouais.
C'est pas vraiment une option que tu as. Tu peux pas créer de la hype massivement comme ça. Avoir un jeu qui a un scope triple... D'un, c'est un jeu qui a un scope triple A dans les mains d'un développeur indépendant, ce qui est quand même tout un défi. Mais tu peux pas créer autant de hype sur le mystère que ce jeu-là va présenter, puis t'attendre à ce que les gens soient compréhensifs de l'échelle du produit final. Si tu veux du mystère, faut qu'il soit complet. Faut que tu files le moins d'informations possible. T'sais.
Puis en fait, je pense que là où ils ont tombé dans l'erreur, c'est que ce mystère-là, c'était presque une volontaire qu'il l'apportait. Il se faisait poser des questions, puis il répondait pas oui.
Mais je pense qu'il
laissait toujours la porte ouverte à « tout ce que vous me dites, c'est peut-être vrai ». Puis vous allez voir, c'est vraiment cool.
Ben, c'est ça. Ça, je sais pas s'il y a une bonne façon de le faire, mais genre, ça me fait chier d'être obligé de croire qu'il n'y a pas de façon de le faire. Mmh. Que tu puisses pas créer un jeu que tu sauras pas tant c'est quoi avant de jouer. C'est sûr que bon, tu t'enlèves un peu ce droit-là quand ton jeu coûte 60$, puis quand il y a une machine à hype incroyable derrière, puis que tu as vanté, que probablement que les joueurs verraient jamais toutes les planètes du monde. Tu as vanté une énormité, plutôt que de laisser le monde se rendre compte que c'est énorme à ce point-là, puis de vendre les mérites, puis de laisser le monde découvrir la profondeur de ton étang. C'est ça, je sais pas comment quelqu'un pourrait le faire, mais c'est tellement quelque chose que je voudrais voir réussir, un jeu avec ce niveau de mystère-là, réussir à être vendu, parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu, puis c'est quelque chose que le cinéma peut faire. Fait que c'est un petit peu aliénant que les jeux soient en reste dedans quand ils ont la capacité de créer un mystère plus grand que n'importe quel autre des autres médias, vu qu'on le joue, vu qu'on l'habite.
Puis, ça se peut-tu que les joueurs aient moins de tolérance au jeu incomplet? Si on parlait de c'est quoi l'impact de livrer un jeu incomplet aujourd'hui, ça se peut qu'on a moins de tolérance à ça maintenant? Que si ton jeu est incomplet, le jeu flop beaucoup plus rapidement, ou avant, un jeu aurait pu faire des ventes décentes?
Personnellement, je pense que c'est à deux côtés. C'est que maintenant, c'est rendu un modèle acceptable de livrer un jeu incomplet, parce qu'on est à l'époque où tout se patch.
Parce que tu le dis aussi. Si tu le dis, même...
Je sais pas, il me semble qu'il y a beaucoup de jeux qui ont livré avec des features à venir, genre. C'est comme devenu quelque chose qui arrive parce que des jeux buggés à la sortie, c'est beaucoup trop commun. Des jeux avec du borderline game breaking bug, là. T'sais, avant, c'était juste pas une option. Ton jeu devait être en bonne shape. Tandis que là, c'est rendu un modèle acceptable, puis le succès, là, ce que tu présentes, le succès des early access, ou ce que tu vends un jeu incomplet, que ces jeux-là souvent arrivent jamais de version 1, là. Parce que tu fais tant d'argent que ça avec un produit partiel parce que le monde aime ce produit partiel-là.
Ou c'est tellement long avant que tu arrives avec la version finale de ton produit que les gens ont move on, sont rendus à autre chose.
Ben ouais, aussi.
Moi, c'est ce que je pense qui devrait plus souvent arriver. Et ça arrive aussi, puis tu te tires dans le pied parce que peut-être que ton idée complète est vraiment intéressante, mais le monde se fait une idée de ton jeu en développement, puis c'est la dernière opinion qu'ils vont en avoir.
Ben, par exemple, on avait déjà comme parlé vaguement de CrossCode il y a vraiment longtemps,
qui était
un jeu qui était en early access, puis qui avait pas grand-chose, là, puis qui était comme, tu pouvais y aller, tu pouvais jouer, puis il y avait pas grand-chose.
C'est un démo, là.
Puis tu sais, c'est comme, OK, je vais revenir, mais je vais attendre longtemps avant de revenir, parce que je veux voir ce que ça va apporter.
Puis on est-tu déjà retourné, quelqu'un?
Ben, moi, je regarde de temps en temps, je regarde où est-ce qu'ils sont rendus dans le développement, puis il reste encore des affaires à développer, fait que j'attends encore.
Mais c'est un cycle de consommation crissement bizarre. Ouais. Je ne suis pas supposé être en train de regarder où est-ce que tu t'en vas avec tes skis, puis livre-moi-les, je vais jouer.
Je suis d'accord, là.
Ouais.
Mais mettons pour No Man's Sky, est-ce que les gens sont revenus avec le patch, là? C'est un peu ça la question.
Ouais, mais là, ce que les gens ont l'air de s'entendre pour dire, c'est que à 60, c'est pas un jeu à 60$ encore. Okay. Si vous l'avez pas acheté, plein prix, achetez-le pas plein prix, mais si vous l'avez à moitié prix, ben là, ça vaut la peine. Il y a un jeu à...
Mais il est souvent à peu près à moitié prix.
Ben c'est ça. C'est rendu un jeu qui a un contenu vraiment décent puis vraiment intéressant pour un jeu à 30$, mettons.
OK.
Puis si tu l'as déjà, puis tu juges que tu n'as pas mis le temps suffisant puis tu n'as pas remboursé ton investissement, ça vaut la peine. T'sais. Ils ont approfondi l'histoire, il y a plus de... Tout est beaucoup mieux apporté, tout est plus beau, tout est plus grand, tout est plus intelligent aussi, tout est plus agréable. Toutes les mécaniques qui étaient un peu frustrantes, t'sais, par exemple, ton vaisseau quand tu es au-dessus d'une planète, tu ne peux pas descendre puis faire du rase-motte au niveau du sol. Tu restais toujours comme pris dans un faux plancher.
Bref, tu peux pas te servir de ton vaisseau pour aller d'une place à l'autre sur la planète.
C'est ça. Là, ils ont modifié ça. Maintenant, tu peux vraiment... T'as plus de liberté au niveau du peu quand tu te déplaces.
Mais c'est sûr que c'est weird, en plus, quand un jeu était vendu sur la liberté infinie puis que t'étais pris dans des systèmes étroits comme ça, c'est étrange.
Mais je pense que le move de Hello Games, c'est un excellent move d'avoir continué à travailler. Je pense que le jeu, aujourd'hui, est redevenu pertinent.
OK.
Je pense que De mon humble avis, de l'avoir essayé, puis de ce que les gens ont l'air d'en dire sur Internet, maintenant, c'est le jeu qu'elle aurait dû être à l'origine, mais ils ne pouvaient pas se permettre de prendre un an de plus pour le développer.
T'sais. À mon avis, s'il avait pris un an de plus puis il l'a sorti, il n'aurait quand même pas rencontré la hype qu'il avait eue. Même s'il avait été annoncé un an plus tard et qu'on avait le même niveau de hype, la hype, c'était « ce jeu-là va être révolutionnaire. Ouais. Ce jeu-là allait changer le gaming dans la tête de trop de fans. » C'était ridicule. Je ferais pas mon « I told you so », mais j'ai dit, ça se peut pas, le jeu peut pas avoir tant d'intérêt, il y a pas tant de choses à faire dans ce qu'ils nous ont présenté. Ils ont jamais présenté tant de choses que ça à faire. Ils ont juste présenté beaucoup de diversité, ces planètes et ces créatures, mais tes actions elles-mêmes ont toujours été relativement simples.
Ouais, puis il y a d'autres jeux qui sont massifs, je pense à Elite Dangerous, où t'as pas le côté Minecraft de ça, parce que maintenant tu peux aussi construire des structures, là, t'as une modification qui permet de créer des bâtiments, de créer des structures. T'as pas ce côté-là, tu peux pas te promener à pied sur les planètes dans Elite Dangerous, mais l'univers Elite Dangerous, c'est une reproduction un pour un de notre galaxie.
De ce qui est connu et une approximation très réaliste du reste.
Je verrai jamais tout ce qu'il y a à voir dans ça. Est-ce que j'ai besoin d'en avoir un univers et quand tu as une galaxie?
Puis c'était pas un bullet point de Elite. C'était le jeu. Mais au milieu de tout ça.
Ouais, c'est un jeu super intéressant avec une profondeur. Est-ce
que vous en parlez? Il faut que je joue à ce jeu-là. J'ai pas encore joué.
J'ai très peu joué. C'est GF, notre résident fan de Elite.
C'est un jeu qui est sorti avant No Man's Sky, puis qui avait déjà plus de profondeur, un meilleur système politique, plus de qualité au niveau des contenus, beaucoup moins de bugs, un gameplay bien plus intéressant, avec un multijoueur complet, parce que tu peux jouer avec tout le monde dans un seul univers.
Mais il s'est bien vendu.
Il se vend encore bien, qui est compatible en VR.
Non, je veux dire, No Man's Sky ont bien vendu leurs produits.
Oui,
ils ont créé une hype incroyable, ils ont créé un mythe à l'entour de ce jeu-là.
Oui. Donc, comparé à Elite, qui est un peu plus...
Low profile,
un peu plus cryptique. Là, c'est les fans qui ont embarqué au début, c'est ceux qui ont joué à Elite en 1980-ish.
J'aimerais ça qu'on mette un cap là-dessus puis qu'on finisse ça, mais je suis obligé de parler de... Et on avait parlé, en fait, Elite, le premier joueur qui a rencontré un extraterrestre.
Là. Ah oui.
Genre, c'était là, c'est dans le jeu, It's a Thing, puis il y a finalement un joueur qui en a rencontré un. Ça, c'est du mystère qui existe. Ça finit par arriver.
Mais il pousse encore plus loin, parce que depuis ce temps-là, il y a eu énormément d'événements. Ils ont rencontré un extraterrestre, il y a eu des attaques de vaisseaux extraterrestres dans différents secteurs. Et là, il y a une corporation qui a laissé paraître dans le jeu. Il y a une lettre de nouvelles qui est publiée tous les mois.
Il y a un character là, qui est dans le monde. Là.
Mais qui est dans le monde, c'est ça. Mais tu reçois comme newsletter dans tes courriels, mais c'est dans l'univers. Puis ils ont publié comme quoi une des corporations, une des factions de jeu qui a publié, qui avait envoyé là où il avait vu un signal étrange, puis avait envoyé trois vaisseaux. Tu sais.
le lore se construit avec
le mois dernier. Là, ils ont dit ben, ils vont revenir. Là. Là, tous les joueurs s'attendaient au retour de ces trois vaisseaux-là. Et il y en a deux, c'était des NPC, puis le leader de l'expédition, c'est un joueur qui s'est connecté en tant qu'un personnage. Et là, les factions de jeu sont assemblées parce qu'il y a une politique un peu à la EVE Online qui s'est installée. Et il y a des joueurs qui sont tenus comme mandat, on va le protéger parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il sait. Puis il y a des factions qui ont dit on veut pas, parce qu'on veut pas que ça sache, ça peut être dangereux, tu sais, puis il faut pas que ces technologies-là soient utilisées, puis qu'est-ce que l'humanité va devenir. Il a eu le temps de transmettre ces informations
avant de se faire in-game, vaporiser.
Mais il s'est fait vaporiser par les autres. Fait, le lore est incroyable.
Parce que l'humanité sera l'humanité.
Ouais, c'est ça, hein, qu'elle soit virtuelle ou réelle.
Mais les gens jouent le jeu, puis ils embarquent dans ce univers-là, puis tu regardes ça, puis à côté, t'as No Man's Sky qui est beaucoup plus vaste, mais combien plus vide.
Fait que finalement, full circle, on est revenu que No Man's Sky, c'est pas si nice que ça. Bon, c'est là-dessus qu'on m'applaudit, mais je veux qu'on revisite Elite Dangerous dans une discussion future.
Bien sûr.
C'est le moment qu'on prend dans l'épisode pour remercier ceux qui acceptent bien de nous donner quelques dollars via la plateforme Patreon pour nous permettre de couvrir nos dépenses. Ça fait quelques moments que je tease qu'il va y avoir des nouvelles choses qui s'en viennent pour Divan Quest. Ça commence. En fait, oui. En date de la publication de cet épisode, vous allez voir, en fait, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'on a évidemment un nouveau visuel pour Divan Quest. Bon, ça, vous vous en sacrez un petit peu, mais... On est content. Ça fait des beaux chandails. Et en date, en fait, de la mise en ligne de cet épisode, il y a un spécial en cours pour les T-shirts sur Spreadshirt. Donc, on va mettre le code disponible sur les réseaux sociaux, justement, pour que vous puissiez profiter de ce petit rabais-là, si ça vous intéresse d'avoir un chandail avec notre beau divan dessus. Ensuite, le nouveau site web est également aussi en ligne. Il va bientôt remplacer le fil RSS existant du podcast. Donc, évidemment, on va commencer à dispatcher de l'information là-dessus. Notre feed RSS va déménager. C'est toujours un petit peu compliqué pour les podcatchers et autres. On va essayer de rendre ça aussi painless que possible et on va garder les deux fils RSS vivants aussi longtemps qu'on peut se le permettre. Bref, là-dessus, suivez-nous sur Twitter et sur Facebook pour être tenu au courant, mais on va vous en parler à tous les épisodes.
Puis ceux qui nous permettent de se le permettre, c'est justement les gens qui nous donnent une coupe de...
Et voilà.
Sur Patreon. Donc, un gros merci à vous.
Et avec nos changements d'infrastructure, justement, ça va nous permettre de mieux, en fait, d'utiliser ailleurs les fonds que vous nous donnez parce qu'on va diminuer certains de nos coûts à travers ça. Donc, comme on a déjà mentionné, comme on a déjà hypé, les Patreons vont avoir des belles petites surprises très prochainement. Alors, soyez à l'écoute et bien sûr, comme mes collègues l'ont dit, merci à vous.
Yes, merci.
Blades of Steel.
Alors moi, cette semaine, j'ai décidé que j'allais vous parler de Retro Game Crunch. Retro Game Crunch, en fait, c'était... Moi, être bien honnête avec vous autres, là, je m'en venais pas vous parler de ça cette semaine. J'allais vous parler d'une franchise de jeux que j'aime beaucoup, mais ça m'a demandé de faire de la recherche que je n'ai pas eu le temps de faire. Et par
ça
contre...
Ça m'a demandé de la préparation.
Ben, c'est ça.
Il t'occupait, il jouait avec Jeff.
J'ai eu le temps de jouer en VR, par exemple. Mais je pense que vous êtes tanné de m'entendre parler, fait qu'on va parler d'autre chose. Non, et là, dans le peu de temps mort que j'ai eu cette semaine, que je me suis dit de quoi je pourrais donc parler, j'avais acheté il y a un certain temps Retro Game Crunch dans un spécial qui m'avait coûté vraiment des peanuts. Puis je me suis dit, je pourrais essayer ça, voir si c'est intéressant, je pourrais en glisser un mot. Et finalement, je suis quand même tombé sous le charme de ce petit recueil de jeux qu'est, encore une fois, Retro Game Crunch. Pour vous mettre en situation, c'est un jeu qui est développé par un studio qui s'appelle Retro Game Crunch. Il n'y a pas de studio en arrière officiellement. Ça a commencé en fait où ce que trois gars, des noms de Rusty Moyer, Sean Inman et Matt Grimm, c'est qu'on dirait des noms de personnages, les trois, là. C'est pas
Rusty,
des vrais
Rusty,
noms.
Rusty, Sean puis Matt.
C'est débile.
Matt, c'est personne qui s'appelle de même puis qui est une vraie personne.
C'est clairement un nom inventé.
Alors, lors du Ludum Dare de 72 heures en 2012, on crée Super Clue Land, qui est un des jeux qui se retrouve dans la compilation. Mais après, on a fait ce jam-là ensemble. Ils voulaient comme continuer à faire ça parce qu'ils ont eu juste beaucoup trop de fun. Fait qu'ils ont starté un Kickstarter où ils ont travaillé par cycle de 6 mois. Ils développaient 6 prototypes. Ils en choisissaient un. Ils peaufinaient celui-là et ils avançaient. Et ils ont fait 7 jeux comme ça qu'ils ont regroupés dans Retro Game Crunch. Donc, qui était la meilleure de 6 idées 7 fois. C'est voilà. Fait que c'est ça qui donne ça. Ou en fait, peut-être que la 7e, je suis pas sûr s'il est exactement comme ça. Je pense que les 6 principales sont comme ça et il y en a une 7e. Mais bref.
Mais beau concept. Hein,
c'est l'incubateur parfait pour une gang de chums à créer des jeux. Et c'est. Je pense que c'est un très très beau modèle parce que ça permet de faire des expériences qui sont et courtes et en même temps satisfaisantes en elles-mêmes. Parce que tu choisis justement le mieux de toutes les idées que tu as sorties pendant une période de temps. Alors, cela dit, Retro Game Crunch, comme je viens de le mentionner, c'est une compilation de 7 petits jeux. Je vais faire évidemment le tour rapidement des 7 jeux, puis ça va pas mal constituer la critique, parce que comme je viens de le dire, c'est le fun, c'est une belle compilation. Le premier jeu, Super Clue Land, qui était le résultat du premier Ludum Dare, c'est un platformer qui est forcément inspiré de Evo sur SNES, donc où on commence en tant qu'une petite créature qui est très très limitée dans ses déplacements, qui peut juste sauter dans ce cas-ci, et qu'on ramasse des... On mange des animaux, puis quand on mange cet animal-là dans le coin de l'écran en bas à droite, en fait, c'est un peu comme une game de Dr. Mario couplée avec notre joystick droit. Donc, on a... En fait, c'est magnifique. Ça se contrôle avec le joystick droit. Donc, on a 4 directions. La direction du bas étant le trou de cul de notre animal. Donc, c'est-à-dire qu'on évacue la pièce qu'on vient de manger. Et les 3 autres sont des patterns qu'on doit reproduire. Donc, je reçois une pièce verte. Ben là, dans ma section à gauche, c'est une pièce verte, une rouge par-dessus. Donc, je dois les reconstruire dans le même ordre. Chaque animal qu'on mange, on s'en donne 3. On doit ramasser plein d'animaux en explorant. pour finir nos étapes d'évolution. Puis quand on en ramasse assez, ben, on finit par évoluer. Donc la première fois, on se ramasse avec avec une queue, on se ramasse avec des ailes, etc. Puis une fois tout ça complété, en fait, on doit aller explorer le monde. C'est un petit peu Metroidvania, là. On doit aller explorer le monde pour trouver une série de pierres puis qui va nous amener au dernier boss. Ça se fait à peu près en une heure. Mais c'est que du plaisir pendant une heure. Ensuite, le deuxième jeu, c'est End of Line, qui est un jeu de puzzle super intéressant. C'est un puzzle top-down. On est un petit robot, puis on doit détruire tous les robots d'entretien qui essaient de nous réparer et réussir à se détruire. Parce que toute fois qu'on arrive... Dans le... mais c'est parce qu'en plus, il n'y a pas tant d'instructions.
C'est un peu contre-intuitif, mais j'aime ça.
Mais déjà, la première room, t'es comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'sais? Là, tu peux, il y a sûrement la documentation suffisante, mais un peu à la manière d'un jeu rétro, tu tombes dedans et tu fais, OK, qu'est-ce que je fais? Mais t'es là, c'est vu de haut, bon, ton petit robot a un petit air mégamanesque à la limite. Là. Il y a des pics. Si tu tombes dessus, tu vas réapparaître sur une place où il y a une croix. Puis un robot qui va s'en aller puis retourner à son point de départ. Fait qu'il faut que tu détruises les robots d'entretien, tous ceux qui sont pas toujours accessibles. Donc des fois, il faut que tu te tues pour qu'il t'amène ailleurs, que là, tu vas être accessible pour le détruire, et ainsi de suite. C'est super intéressant. J'ai vraiment été comme surpris de cette belle mécanique de puzzle-là où on doit leurrer carrément des robots à, bref, s'en venir à différents endroits ou à briser une machine qu'on est obligé d'aller réparer pour qu'il s'approche de nous, pour pouvoir finalement réussir à juste se tuer puis avoir la maudite peine fois mort.
C'est difficile. C'est un peu
nihiliste, là, mais c'est, ouais, c'est très, très nihiliste. Même mécaniquement, c'est super intéressant. Il y a Gaia-Tac, donc Gaia, T-T-A-C-K, qui me fait penser un petit peu, là, je pige dans les favoris du monde indie, mais Super Crate Box, qui est un petit jeu où on a plein de waves d'ennemis puis qu'on tire partout. Il y a un petit peu le même style de gameplay puis de contrôle qui est très, très rapide. Il peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc, on peut avoir chacun des éléments de Gaia qui sont représentés par nos petites créatures. Et on doit toujours monter dans un tableau. C'est des waves d'ennemis. Puis là, quand il est fini, on monte, l'écran monte par lui-même et on doit suivre. Puis on embarque toujours sur un bateau pirate où est-ce qu'on doit détruire le pirate et faire crasher le bateau pour retourner. Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. Yes.
Pirate tout. On n'avait rien de prévu, merci Dan. Donc, très très action, du platforming, du action platforming tight de qualité. Ensuite, on a Paradox Lost, qui est carrément un Metroidvania, avec une mécanique fucky où notre gun qu'on obtient au début permet de se déplacer entre trois époques différentes quand on se fait tirer par le gun. Donc, on doit trouver des cristaux qui reflètent nos attaques quand on les charge pour se propulser nous-mêmes dans une autre époque. Donc, on peut juste voyager à certains endroits, mais on doit aussi déplacer des gens qu'on va sauver en les tirant d'une époque à l'autre.
C'est vraiment ça que j'aime. T'en parles depuis tantôt, ça m'a pensé à quelques-uns des jeux qu'on a pu parler qui provenaient d'un game jam quelconque. C'est des mécaniques genre fucky puis différentes. C'est vraiment le fun.
Par le format, ça favorise l'exploration. Ouais, ça, comme, ça donnerait quoi si on le faisait? T'sais?
Ça sent l'ordinaire.
Puis c'est un bon petit... Il est très, très typiquement Metroid où on acquiert des nouveaux pouvoirs qui vont faciliter notre progression. Mais c'est vraiment quand même bien construit. Il est pas très long non plus. Je sais que j'approche de la fin. Doit être une histoire d'une heure et demie, peut-être deux heures total. Mais c'est du pur Metroidvania. Puis ils ont tout un peu le fini, avant que je continue, là. Ça me fait penser quand j'avais parlé de Alwa's Awakening. Tu sais que c'est ces jeux-là qui sont jamais les grands classiques d'une génération. Ils ont beau avoir un feel 8-bit, tu diras jamais, ah, ça, c'est un des plus beaux jeux du NES. Non, il y a comme un côté, c'est un très bon jeu qui a pas eu tous les moyens qu'un gros jeu aurait eu. Ça a son charme. C'est le genre de jeu-là qu'on jouait tout le temps sur ces plateformes-là, qui était plus la routine de ces consoles-là que les grands classiques qui ont en réalité occupé qu'une partie des jeux qu'on a joués. Fait que ce petit côté-là, justement, un petit peu rough, un petit peu B-side du visuel, est vraiment intéressant. Le prochain, Wob Wob Rescue, dis-je. Sérieusement, c'est celui qui m'a le plus impressionné au total. On incarne un pug. Premièrement, tu me perds, ça m'intéresse zéro moins de barre. Je suis tellement tanné. Là.
Le chien, là.
Oui.
Faut pas le petit disque
en carton. Non, non. J'aurais été pas mal plus intéressé si on était le petit disque en carton. C'est comme c'est quoi le gameplay tu peux faire. Tu joues un pug, le chien, dans un jeu qui est très, très inspiré des designs de jeux d'arcade des années 80 comme Donkey Kong, Donkey Kong Jr., où notre platforming est très délibéré. Si je tombe de trop haut, je meurs. Si je peux pas changer de direction quand je suis dans les airs. Tout est très lent et délibéré, mais il y a des mécaniques de rythme d'intégrer à ça où on doit aller sauver évidemment une petite madame qui est entourée par deux joueurs de tam-tam tribo. C'est très cliché. Là, on est dans la jungle, il y a des arbres, il y a des dos dans le chest avec un pang qui tape sur des petits tambours. Là. Bon. Mais la musique a comme des petits mouvements sont très très courts. Là. C'est comme un deux mesures. Puis des fois, il va servir comme des deux derniers temps de la deuxième mesure pour changer de quoi. Mais tu le reconnais à l'oreille quel moment qui va changer de quoi dans le tableau. Exemple des plateformes qui vont apparaître, disparaître juste pendant certains temps du rythme. Et on peut même trouver dans certains tableaux, il y a un gramophone. Si on va à côté, on écoute la mélodie, on obtient dans le fond un power-up qui nous permet de ralentir la cadence de la musique quand le pog se met à chanter. Fait que toutes les flèches qui partent sur tous les temps, qui viennent d'un canon, arrivent à moitié de la vitesse. Donc, nous permettent de passer entre. Mais c'est tellement du... En fait, je suis déçu qu'il n'y ait pas une mécanique de scoring dans le jeu. C'est juste des tableaux. Il devrait avoir une mécanique de scoring par le temps parce que je le vois... C'est vraiment un design qui aurait marché comme un jeu classique. Il y a vraiment tous les bons éléments d'un design simple puis très, très bien peaufiné.
Fait qu'avoir un leaderboard, puis...
Ben, tu sais, un scoreboard local, pas besoin qu'il soit en ligne, mais juste avoir quelque chose à compétitionner dans ce genre de jeu Donkey Kong-esque-là, parce qu'il, clairement, il prend inspiration de ce jeu des années 80-là, où tout est... C'est une perfection lente. c'est super intéressant. Ensuite, on a Brains and Hearts, qui est un jeu de cartes. Sérieusement... Je trouve qu'il fait un peu weird dans le tas où est-ce qu'on parle de l'idée que c'est du rétro game. Le visuel est là, mais c'est un jeu de cartes à deux joueurs contre l'ordinateur qui est super intéressant quand même, mais je me déplacerai pas pour ça. C'est un petit jeu de cartes simple. Bon, qui est pas sans mérite, mais qui est pas dans le feel hyper accessible des autres.
Genre, il est là puis c'est correct.
Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, je peux comprendre sa meilleure idée qu'ils ont sorti un moment donné, là, mais c'est pas très rétro comme style de jeu. Et on a Shootin', S-H-U. Tréma, non pas tréma, tilde, petite vague, là, T-E-N.
Sur le U.
Sur le U, bien sûr. Dans le fond, c'est un shoot-em-up, fait que c'est shoot-in pour shoot-em-up. C'est un shmup quand même sympathique où on joue un samouraï, on peut jouer à deux joueurs. Ce qui le rend intéressant, c'est que oui, on a notre attaque standard, l'écran avance verticalement tout seul, mais on peut charger notre attaque pour tuer un ennemi et voler son attaque. Comme ça, notre attaque secondaire devient le power-up de cet ennemi-là. Qui donne un peu plus de diversité que le shmup traditionnel nous donnerait. Puis c'est un shmup style NES. Là, le NES n'a pas vraiment eu de bons shmup. Là. Si on est un fan de shmup, là, c'est toujours jamais si rapide, jamais si intense. C'est un petit peu dans cet esprit-là là, de shmup. Mais c'est super le fun. Ça fait penser justement à tous ces shoot-em-up plus accessibles là, du NES, mais avec une petite twist vraiment intéressante. Fait que c'est ça. Ça, c'est les 7 jeux qu'on a là-dessus. Mais chacun des jeux par lui-même, tu me les aurais vendus à une pièce sur mobile, j'achetais.
Ouch.
Puis, c'était ma réaction aussi. Ouais, écoute, je tapais dans les murs. Puis tout.
t'as dit que t'as eu ça pour des peanuts?
Malheureusement, à son prix régulier, je le trouve un peu intense. Si j'ai des critiques négatives à y faire, là, à 10,99, c'est un peu beaucoup. Mais j'imagine que. Moi, je me rappelle que je l'avais acheté. Genre, j'étais hésitant. Puis, soit qu'il était dans un bundle, soit qu'il était dans une vente. Je suis désolé, là, je me rappelle vraiment plus. Parce que c'est sorti il y a 2 ans. Mais je me rappelle que
je me rappelle
avoir payé presque rien dans une vente. Donc, restez à l'affût si ça vous intéresse. Mais c'est sûr que à 5$ et moins, je le suggère sans aucune hésitation. À 10$, je trouve ça rough. Si vous ne jouez pas qu'une manette, parce que dans le fond, en réalité, les autres sont servis de Flixel, qui est une librairie qui permet de faire du action script, qui est comme du flash, pas du flash, pour faire du développement de jeu. Puis, avec le clavier, les boutons sont mappés différemment dans les différents jeux.
OK, ouais, fait que
c'est
ça devient...
un petit peu de la merde, honnêtement. Il y a un jeu qui est comme, OK, là, tu joues avec les flèches, mais tu joues avec espace pour faire l'action. À l'autre, c'est Z puis X. À l'autre, tu joues avec le ASDW, puis c'est V puis C. Qui...
Ouais, OK.
OK, bon. Mets un gamepad dedans, un X input, puis tout est correct. Donc, à jouer avec une manette. Ils ne respectent pas les contrôles, évidemment, d'un jeu de NES. Là, comme je disais, le Super Clue Land, on joue avec le joystick de droite pour attribuer nos petites pegs à la Dr. Mario qui tombe. Bof, j'y en tiens pas rigueur. C'est le design qui était plus important du jeu. Mais avec une manette, ça règle ce problème-là parce que ça en est ridicule. Il y a un des jeux, il faut que tu partes avec la souris pour aller choisir quel type de jeu tu fais. Puis là, tu tombes avec un clavier. C'est un peu niaiseux. Donc, le prix, le layout des contrôles. Puis aussi, à moins que je me sois trompé, il n'y a pas de façon de quitter chacun des jeux. Faut que tu aies Alt F4, là. Mais tu reviens au menu des jeux qui est clairement comme un jeu séparé. Okay. C'est vraiment juste comme ils ont fait un programme en Flixel qui est un launcher pour tous les jeux. Tu sais, il y a un côté très, très amateur à toute la patente.
Ah ouais.
Mais ça nuit pas au produit qui est 7 jeux fort, fort sympathiques.
Puis on sait autre chose depuis?
J'ai pas trouvé, puis je me demandais d'ailleurs, parce que dans Paradox Lost, le Metroidvania, La musique me faisait penser énormément à la musique de I Was Awakening dans un des morceaux. Donc, je serais pas surpris que le compositeur ou un des membres de l'équipe ait fait son chemin à travers les différentes équipes. Mais les gars ont des backgrounds professionnels divers. Là, fait que c'est pas tous des gars qui ont jamais rien touché avant de se mettre à faire un jam. Évidemment, là, le vu que c'est une histoire Kickstarter, inquiétez-vous pas que il y a du stock pour à lire là, sur eux. Là. Mais non, c'est ça, ils ont vraiment... ils ont vraiment mis à profit leurs intérêts divers, mais c'était tous des créateurs de jeux indépendants ou des compositeurs et sound designers qui ont déjà travaillé sur d'autres projets. C'était juste complètement nouveau pour eux autres de tout faire ça ensemble. Puis la preuve est dans le pudding. Ça, ça fait longtemps.
Ah, ça fait longtemps.
mais c'est une super belle expérience, je trouve ça cool.
C'est, j'ai été. Je sais pas, il y a une joie à arriver dans quelque chose que c'est. Tu le sais, quand dans une heure ou deux, t'as fini.
Ouais.
Surtout dans un film. Quand, la plupart des jeux de NES qu'on jouait sont pas si longs que ça, là. OK? Fait que d'arriver dans le quad de rétro-feeling, avec une sensibilité moderne où ce que quand tu meurs, les reloads sont instantanés, là. Dans les jeux où ce que t'as des changes d'échec plus rapides. C'est hyper accessible. C'est clairement des très, très, très bonnes proof of concept qui tirent pas le temps bref que tu leur accordes. Donc je leur donne un bof, écoute, un 4 pattes de divan, mais ils sont pas tous pareils, et pas tout à fait au niveau.
Ils sont pas égaux.
<C'est ça. rire> Pas tout à fait au niveau là, mais bon, t'es bien super agréable.
Ouais, tu sais. Aujourd'hui, dans l'univers des Divon Quest, nous sommes le 28 août. Je commençais en 1619. Ferdinand II, oui, est élu empereur du Saint-Empire romain germanique. À l'occasion de son premier discours, il change l'hymne national pour cette chanson.
Tellement prévisible.
Ouais, j'étais fatigué. J'ai commencé tôt à préparer le podcast. Je pense que c'est un des premiers que j'ai trouvé. 1833, oui. Abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. Bon, je sais pas si c'est vraiment le cas, là, parce que dans Wikipédia, il y avait comme le petit truc, le référence nécessaire. Mais non. Je suis allé vérifier. J'ai même ajouté une source personnellement sur l'article. Hein, et vous pourront pas dire que mon segment devant quoi sert à rien.
T'as linké sur une de tes posts Facebook. T'as fait comme, c'est vrai, c'est-tu, come on?
Non, c'était une page du gouvernement du Canada. Là, fait que...
Ça se ressemble.
Non, pas du gouvernement du Canada. En tout cas, comme une Welt quelconque. Là. Bref, quelque chose de gouvernemental et fiable. C'était les bonnes dates. Écris sa référence. Yes, j'ai fait de quoi sur Wikipédia.
T'as contribué.
Alors, qu'est-ce que t'as fait cette semaine, Dan?
J'ai contribué sur Wikipédia. C'est le son que j'ai fait, exactement.
Je sais.
1845, première publication du magazine Scientific American, qui deviendra en fait le plus vieux magazine publié sans interruption depuis. Donc, un magazine qui gagnerait à être lu par plus de gens, je crois.
Et plus de présidents.
Ah, mais bon, c'est ceux qui regardent le soleil pendant les éclipses, maintenant.
Magnifique.
De toute beauté. J'avance quand même un peu plus loin. En 1963, ouais, je vais laisser en fait le principal intéressé, dans le fond, parler lui-même de l'événement.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
C'est douloureux hein, quand même. Quand...
Oui, il doit se revirer dans sa tombe ces temps-ci.
Sac de spinner, mon gars.
Il doit faire du breakdown.
C'est pas vidéo, hein. Je fais des
trucs. Il fait le bacon dans sa tombe.
Bon, 1986, sorti bacon. Au Famicom de Mobile Suit Z Gundam Hot Scramble.
Oui, c'est bien, ça t'intéresse.
Mais ouais. Non, ben oui, ça m'a intéressé à cause de mon intérêt nouveau, là, quand même relativement bas.
Pour
là.
Les petits robots qu'il faut
mais, quand même, j'étais curieux, j'ai regardé un peu de gameplay, ça a l'air intéressant. Je risque de l'essayer juste parce que ça a l'air différent de d'autres jeux de NES que j'aurais pu essayer. Là.
Mm-hmm.
Puis probablement qu'il n'est même pas sorti ici. Là, fait que...
C'est ce que j'allais dire, probablement pas.
Fait que je vous en reparlerai si je finis par l'essayer.
Cool.
1988, oui, accident de Rammstein sur la base aérienne de Rammstein en Allemagne. Trois avions se percutent en vol et chutent sur la foule là, pendant qu'elle assistait à un groupe, une prestation d'un groupe allemand suivant. Là.
Ouais, tellement prévisible.
Avoue que ce coup-là, je t'ai eu. Hein?
Parce que tu nous as habitués à tellement peu d'efforts.
Mais c'est vrai, ça. C'est...
La nouvelle est vraie avant le groupe. Il n'y avait pas de musique. Il y avait vraiment une foule parce que c'était un
air show.
C'était pas un show de ce groupe-là.
Non, c'était pas Nina qui chantait 99 Love Balloon. Qui m'a fait penser à Scrubs dans l'épisode où est-ce qu'il y a un patient allemand. Puis que...
La seule façon qu'il trouve de... qu'il aimerait ça communiquer avec.
C'est en dansant. En fait, non, on rit. C'est pas très drôle là, parce qu'il y a eu 70 morts et 346 blessés. C'est ça.
C'est pas drôle.
Non, pas pour qu'on rit. 92, en hommage au. Sorti en fait, là, en hommage au trailer fucking metal qu'on a posté la semaine passée là, sur le groupe Facebook là, de pêche.
Je pêche.
Donc en 92, c'était la sortie de Black Bass Lure Fishing sur Game Boy au Japon.
Oh,
c'était peut-être moins metal quand même. Avec la chip audio du Game Boy. Là.
C'était moins. Je cherche le nom de la variante de métal que je retrouverai pas. Gent. C'était moins Gent un peu qu'à l'époque.
J'ai une petite série de sorties en fait sur PlayStation. En 96, Tekken 2 qui sortait. Mm. Ouais. 97, toujours sur PS1, sortie des populaires, des très populaires, même Cool Borders 2 puis Twisted Metal 2.
Yes.
Ben, sortie japonaise là, en fait. Mais bon.
Cool Borders 2, je suis obligé de dire que je n'ai aucun intérêt pour le sport. Mais mon Dieu, que ce jeu-là,
vraiment,
j'ai joué.
Hein, j'ai la même chose.
Avec le, il y avait le Big Air Mode, là, que tu peux faire comme c'était des steps à l'infini, puis tu devais faire le type de saut, le type d'acrobatie, selon juste la description. Il fallait que tu te rappelles, oui, c'était ça. Quoi. C'était une espèce de Game of Simon de faire des tricks en snow.
Ouais.
C'était vraiment mon gars.
C'était nice.
Il y a des jeux de sport comme ça qui ont... Même si tu n'as pas d'intérêt à jouer, tu sais, Tony Hawk, Pro Skater 2.
Ouais, ben, pour moi, Cold Border a été mon Tony Hawk. Je sais que je m'enlève beaucoup de gaming cred, là, mais Tony Hawk a vraiment. Ça, puis Jet Moto, mettons. Ça a été mes deux jeux sportish. On s'entend que, bon, je stretch, là. Mais qui ont tenu mon attention longtemps.
Wave Race 64.
Quand même. J'ai pas de 64, puis ça a tenu mon attention pas mal. C'est vrai.
Ouais. Puis je finis ma série en 98, l'autre année après, encore au PS1, Grand Theft Auto, sorti au Japon.
Mm-hmm.
Le premier. Là.
Le début d'une grande série.
Oui, oui, puis tellement différent. Là. Hey, trouve un Flo qui joue à Grand Theft Auto 5, puis fait le jouer à Grand Theft Auto 1 juste pour le voir.
Non, ça c'est pas le même genre de joueur. Hein.
Ce serait drôle.
Happy birthday to you.
Donc, naissance, je commence en 1917 avec la naissance du père de nombreux super-héros, dans le fond, qui sont encore connus, très populaires aujourd'hui. Connu sous le nom du roi des comic books, il a co-créé entre autres Captain America, les Fantastic Four, Hulk, Thor, Avenger, X-Men, Monsieur, parce que je le mérite, parce qu'il mérite, Monsieur Jack Kirby. Voilà, qui est né en 1917. 1952, naissance d'un des grands acteurs du Québec que j'affectionne particulièrement pour son sens de l'humour et sa capacité à ne pas se prendre au sérieux. On l'entend ici, justement, à Infoman, en train de lire un message téléphonique laissé par Ken Pereira sur la boîte vocale de Michel Arsenault là, pendant la commission Charbonneau.
Premier message enregistré.
Ça fait 3 ans que des Québécois ne travaillent pas au Québec, mon astide de vidange. Tu vas en entendre des enregistrements de ta part, mon asti de pourriture. Va le donner à la police, mon asti d'enfant de chienne, crosseur de trou de cul. T'es tout le temps défendu, asti de vidange, vidange. Tu vas voir que les enregistrements vont sortir à ton égard. Tu watch ça.
Compte tes jours comme président.
Un président.
Alors, c'est l'anniversaire de M. Guinadon dont on parlait tantôt.
J'ai failli dire... Mais pas si vieux que ça, Guinette. Ah ben, calice.
Et voilà. 1965, naissance de la chanteuse ontarienne, Shania Twain. Je sais pas pourquoi je souligne ça, là, mais en tout cas. À 52 ans, fait que bonne fête.
C'est quand même moins pire que tes dictons.
Ouais, j'y arrive.
Je sais pas, calice.
Tu sais que mes dictons, le dicton de la semaine, man, I feel like a woman.
Même année, mais un peu plus dans les cordes de notre show que Madame Twain. Naissance de celui qui va devenir le créateur d'un jeu quand même connu.
Jamais entendu parler.
Donc, naissance de Monsieur Satoshi Tajira, créateur de Pokémon par la suite. Là. Mm-hmm. Je pense qu'on entend le
Oui, par la suite, parce qu'à
il est né, puis il a dit « Pokémon! »
sacrément. Sacrément que ça vole pas.
Il est pas né, il est sorti d'une Pokéball.
Oui.
En faisant les bruits de Game Boy.
Non, come on, il a spawné.
Il a spawné. Sa mère,
il a,
là.
Il a défeinté.
Sa mère a cru dans le gazon long. Là.
Ah, en vélo.
C'est que c'est faible. Finalement, ton dicton, ça peut être pas super.
Ouais, hein. 1969, naissance de l'acteur américain et chanteur de ce petit bijou.
Oh yeah.
This is the greatest and best song in the world. Tribute.
Eh oui, donc Monsieur Jack Black. Je savais que vous alliez
ce
chanter.
Grand espion.
Et finalement, oui, je termine avec mes fameux dictons. J'arrivais pas à choisir cette semaine, fait que j'ai deux dictons.
Oh, wow!
Donc, une grande semaine.
Fine pluie à Saint-Augustin, c'est comme s'il pleuvait du vin.
T'as pas réussi à choisir.
Attends. À la Saint-Augustin, le soleil a grillé le serpolet et le thym. Puis en cherchant le serpolet, c'est une autre sorte de thym, finalement. Le thym et le thym. OK, c'est ça.
OK. Ben, non, mais on...
T'as pas une tâche facile hein, de départager tout ça. Des...
Non, ouais,
respect pis tout.
Beaucoup de manque de jugement.
Ouais. Fait, en parlant de dépoussiérer des vieux thèmes cette semaine...
Donc, ben, on a Jeff.
On dépoussière Jeff, c'est ça. Where's Jeff? Il est là, avec son vieux thème. cette semaine, j'ai joué à Hellblade, Senua's Sacrifice.
C'est pas comme le vieux dans Family Guy, là.
Ou comme
Herbert the Pervert, là.
Cette chemine.
C'est pas agréable, pas tout.
Non, je m'arrête. Donc, Hellblade, vous l'avez sûrement vu passer, il y a sur toutes les App Store, il y a eu beaucoup de publicité autour de ça. Et ça a accroché mon œil parce que c'était développé par Ninja Theory, qui est derrière, entre autres, Heavenly Sword, qui était un launch title du PlayStation 3, ou en tout cas dans les premiers jeux à la sortie du PlayStation 3.
Quelque chose de même.
Ouais, mais que j'avais vraiment beaucoup apprécié, qui a fait aussi le remake de Devil May Cry. Et,
l'excellent DMC. Bon,
Enslaved.
Pas tout le monde serait d'accord, là. Puis Enslaved Journey to the West.
Journey to the West, c'est ça. Donc, qui est un développeur que j'apprécie pour le petit côté cinématique, puis
petit côté cinématique, le grand côté cinématique. Understatement de l'épisode, les amis.
Of the week. Mais pour ça, leur côté cinématique, leur côté, beaucoup de petits détails dans le jeu d'acteur, les personnages et de tout ça. Fait que j'ai été d'un seul pas vers Hellblade. Je l'ai acheté sans réfléchir, sans lire les reviews.
Oh
je
boy.
Me suis dit, je vais faire mon idée moi-même. J'ai été agréablement déçu. On va mettre ça comme ça.
Tabarnak.
Agréablement déçu.
Je veux le t-shirt avec ça dessus.
Fait que,
du Vanquish, j'ai été agréablement déçu.
Oh, soyez agréablement déçu.
Vous aussi, soyez.
Non.
C'est le nouveau tagline sur le nouveau site web.
C'était soit ça ou un dicton à dame.
Ouais, il pleut du vin et tout.
Ouais.
Donc, ben, je m'explique. Si vous me laissez m'expliquer.
Pas tant de besoin.
En fait, je m'attendais à un jeu plus similaire au jeu précédent. Fait qu'on pense à Devil May Cry, on pense à Heavenly Sword, on pense à Enslaved, qui sont des jeux avec quand même beaucoup d'action. Donc, je m'attendais à ça. À un jeu où les combats allaient être tight, où il allait avoir, ça allait être une partie importante du jeu. Et c'est ce côté-là qui m'a déçu un petit peu. Le côté cinématique, au contraire, c'est le côté agréable de la chose. Lui, il était vraiment, vraiment bien réussi. Donc, où Heavenly Sword était une sorte de God of War-esque, où l'accès, c'est vraiment du combat sans arrêt, avec une certaine narrative, avec on avait Andy Serkis qui faisait le méchant principal, fait où le motion capture, le voice acting, est vraiment mis de l'avant. Et moi, j'avais vraiment...
C'est pas un acteur qui fait des... bon voice acting d'habitude, pas bon lui.
Il est pas d'ailleurs resté justement comme genre motion coordinator pour ce studio-là.
Ça se peut.
Il a pris un rôle plus important dans cette lignée-là.
Je pense pas qu'il ait participé à Hellblade, par exemple. Mais
possible.
Non. Je m'attendais un petit peu à ce côté-là de jeu d'action à la troisième personne, à la Devil May Cry, God of War-ish. Et c'est le côté qui a été un petit peu manquant. Hellblade est présenté comme un jeu d'horreur psychologique cinématique. Puis c'est ce qui le représente très bien. Et les Ninja Theory, ils présentent, ils le décrivent comme étant un AAA indépendant. Donc, ce qui a démarqué le jeu, puisque les gens...
Comme No Man's Sky.
Comme No Man's Sky. Mais c'est plus une réussite, il y a plus de contenu. ce qui est intéressant du jeu, puisqu'il y a un des points que beaucoup de gens ont parlé de Hellblade, c'est l'implication, ou plutôt la consultation que les développeurs ont fait avec des professionnels de la neuropsychologie et des domaines de problèmes psychologiques et psychoses et tout ça.
Bref, santé mentale.
Santé mentale en général. Parce que c'est un des thèmes majeurs, sinon le thème majeur du jeu, où l'héroïne, Senua, s'en va en enfer, finalement, là, dans la version nordique, parce que on joue, c'est une viking. Là. Donc, dans la version viking de l'enfer, pour essayer de retrouver un compagnon, je ne donnerai pas trop de détails pour ne pas aller trop loin dans l'histoire.
C'est quand même un jeu cinématique.
Mais elle veut sauver quelqu'un, puis le ramener. Et elle arrive dans ce monde-là avec tout son bagage psychologique.
Tel Robin Williams dans What Dreams May Come, elle doit aller sauver quelqu'un de l'enfer.
Genre, ce serait quand même une bonne... au niveau visuel, au niveau du thème, ça se ferait. Ça se tient.
Ok, ok.
Je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ce film-là, là, mais ça se tient.
Ça se réécoute très bien en passant. Ouais. Fait que.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que Senua entend des voix dans sa tête. Donc, dès l'ouverture du jeu, la première image qu'on a à l'écran, c'est qu'il recommande d'utiliser des headphones parce qu'il utilise beaucoup le stéréo binaural audio, là, positionnel.
Ok, binaural.
Binaural. Mm-hmm. Parce que. À travers tout le jeu, on entend les voix de Senua dans nos écouteurs. Et là, c'est là que c'est...
Les voix,
oui. Pas une, pas deux, plus comme genre 40.
Elle n'est pas toute seule là-dedans.
Elle n'est pas toute seule dans sa tête. et elle se répond, et elle se parle, et elle parle avec eux, il y a un échange. Si vous vous demandez c'est quoi être schizophrène, puis ça vous a demandé, non, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils entendent les schizophrènes? Ben, je vous invite à tester Hellblade, c'est vraiment pas agréable. mais les développeurs en font une utilisation vraiment géniale. Ninja Theory ont toujours été assez minimalistes au niveau des interfaces visuelles, et puis ils trouvent toujours des façons un peu alternatives de présenter l'information qu'on a besoin de connaître au niveau du jeu, et ils en font un job excellent. Genre, on n'a pas, il n'y a rien. Il y a le personnage, il n'y a aucune indication, il n'y a aucun UI absolument dans l'écran. Et c'est les voix qu'on entend qui nous donnent toute l'information qu'on a besoin. Par exemple, dans un combat, si on est vraiment blessé puis qu'on approche de la mort, mais là, c'est les voix qui vont dire comme, oh mon Dieu, ça va vraiment pas bien, tu sais, sauve-toi. Fait qu'ils te donnent des indices des cues. Ou par exemple, au lieu d'avoir des effets visuels sur les ennemis pour dire, ben, ça, tu peux le dodger ou tu peux le bloquer, ou il n'y a rien de visuel, c'est les voix. Fait, par exemple, un des ennemis qu'on rencontre, un des boss qu'on rencontre, au milieu du combat devient visible. Puis là, les voix font « I think you should focus ». Tu entends juste ces voix-là dans ta tête. Puis il y a un bouton à la manette qui c'est pour focuser. Fait que quand tu focuses, l'ennemi redevient visible. Tu peux le battre contre. Donc, tout est véhiculé à travers la narrative que les voix nous disent à nous, disent à elles dans sa tête. Et ça l'apporte vraiment, vraiment très bien le thème de la psychose, la maladie mentale et tout ça. Fait qu'on comprend très, très vite là, dans le jeu, dans les premières minutes du jeu, on comprend que c'est pas nouveau pour elle, là. C'est quelque chose qu'elle traîne avec elle depuis longtemps. Donc, elle est familière avec ces voix-là et elle a appris à leur répondre, puis elle a appris à les écouter. Mm-hmm. Et ce qui nous invite à faire un petit peu la même chose, parce que c'est de là que l'information est véhiculée. Mais au niveau de l'audio, au niveau de l'ambiance, c'est incroyable. Pour vrai, je l'ai joué dans le noir, tout seul, devant ma télé, mais là, on est allé se coucher. Fait que j'avais mes headphones et c'était vraiment angoissant.
Fait que t'as fait beaucoup de brassées de bobettes cette semaine-là.
pas tant que ça, et je m'explique. donc, au niveau du thème, au niveau de l'ambiance, c'est vraiment malade ce qu'ils ont réussi à créer. Les graphiques sont exceptionnellement beaux. Le jeu, l'actrice qui joue le personnage, ils mettent beaucoup de détails à se reproduire son visage avec les expressions faciales. Détails extrêmement intéressants qu'un de mes collègues m'a soulevé. C'est que si tu tournes la caméra pour venir vraiment en face d'elle, c'est un jeu à troisième personne. Mm-hmm. Donc, si on amène la caméra devant elle, elle détourne toujours les yeux pour jamais nous regarder dans les yeux. Jamais elle nous regarde. Ça va jusque-là à sentir comme toute l'angoisse qu'elle ressent puis la psychose dans sa tête. Et j'ai vraiment pas à l'aise.
C'est un petit peu méta, ça.
mais c'est, t'entends ses voix qu'elle entend. Fait, déjà là, sure. C'est déjà méta. Un détail vraiment important de ce jeu-là, puis ce qui a amené beaucoup de gens à le comparer à Dark Souls. Puis je pense que c'est quelque chose qui a participé à attirer beaucoup de monde vers ce jeu-là. Je pense que Dark Souls, c'est un peu ça va donner un type de jeu, j'ai l'impression, un peu comme les roguelike, on a les souls-like, qui sont les jeux extrêmement difficiles.
Ouais, c'est ça. Mais... c'est une discussion pour une autre fois, mais mettons, dans le sens que c'est très difficile.
Ben, où l'échec est une punition sévère, disons. Mm-hmm. Dans Hellblade, dès les premières minutes du jeu, on est avisé qu'il y a quelque chose qui est comme la corruption qu'on voit sur sa main, puis à chaque fois qu'on meurt, la corruption monte le long de son bras, puis si ça atteint sa tête, elle vient trop folle, et on doit recommencer le jeu au début.
Okay.
Donc, il y a une limite au nombre de fois qu'on peut échouer à travers le jeu. Évidemment, ce n'est pas un jeu de 20 heures. Là. Ceux qui ont complété le jeu le font en 5h30, 6h maximum. Fait
que, okay.
Okay. C'est pas une longue haleine de « faut jamais que je meure ». C'est réalisable. Mais il y a quand même cette pression-là de dire « OK, les combats ne sont pas faciles, il n'y a aucune indication visuelle, tu dois te fier à ce que tu entends. » Et il y a un lourd poids qui est rattaché à l'échec à travers tout le jeu. Donc, que tu meurs en combat ou que tu meurs en dehors des combats, ça a un prix. Puis si ça arrive trop souvent, ben, on doit recommencer dès le début. Maintenant, mon problème avec Hellblade Senua's Sacrifice, c'est que il y a eu beaucoup de puzzles dans le jeu. Là. Donc, c'est pas un temps un jeu d'action où il y a constamment des combats. On se rend compte qu'il y a un gros côté cinématique, un gros côté narratif. Donc, dans son passé, elle a déjà rencontré un personnage qui est un peu prisonnier de l'enfer où elle est. Puis il y a des runes nordiques un petit peu partout. Puis quand on focus sur les runes, mais elle communique avec ce personnage-là. Puis il raconte un peu l'histoire de la mythologie nordique. Puis à travers son histoire, tu finis par comprendre qu'est-ce qui est arrivé à elle, qu'est-ce qui est arrivé à lui, qu'est-ce qu'il fait. Puis bon, tout se développe à travers cette narration-là. Donc, c'est vraiment un jeu où, pendant qu'on résout les puzzles et qu'on se promène, bien, on entend la voix du personnage quand on trigger les conversations, puis on découvre l'histoire à travers l'audio. Puis on a toujours les voix qu'elle entend qui viennent interagir avec ce que lui va dire, avec ce qui se passe dans l'environnement. Fait qu'il y a ce jeu-là, entre les voix dans notre tête, ce personnage qui nous parle, comment ça réagit à tout ce qui nous entoure, qui nous donne l'information qu'on a besoin pour les puzzles, mais qui vient nous mélanger aussi.
Mm-hmm. Qui amène le concept du monologue interne à un autre niveau, là,
exactement.
Par définition. Là.
Comme, mais c'est comme si on était témoin de ce monologue interne-là, puis que ça devient des indices pour nous aider dans le jeu, finalement. Fait que ça, c'est très, très, très intéressant. Les combats, dès le début, on voit on est exposé à une scène de combat, puis c'est quand même difficile. Là. C'est à la Dark Souls, c'est très punitif, où on doit absolument mesurer, apprendre les patterns des ennemis, apprendre à quand dodger, quand bloquer, quelle attaque. Il y a une attaque légère, une attaque plus forte, là. Light puis heavy attack. Fait qu'on doit apprendre à les timer. Les ennemis sont quand même intelligents, puis cherchent à se mettre derrière nous pour nous prendre par surprise, sans nous encercler. Fait qu'on doit se positionner. Le combat est pas évident, même à facile, c'est un certain défi, mais c'est pas impossible. Sauf que, malgré toute l'ambiance que le jeu réussit à installer, et je reviens au premier boss, c'est comme le premier univers dans lequel tu rentres dans l'univers d'un des dieux grecs, puis tu dois... grec... viking...
C'est comme tellement une phrase qu'on dit, genre, les dieux grecs, seul bloc.
Les dieux vikings, les dieux nordiques, et t'es dans son univers plein d'illusions, puis... Là, les voix disent que tu peux pas te fier à ton regard, puis tu peux pas te fier à personne, puis là, tu vois comme des illusions partout, puis là, t'es tout le temps comme soumis à « il peut arriver quelque chose, il peut arriver quelque chose, il peut arriver quelque chose ». Et pendant, je dirais, le bon premier 10, 15, 20 minutes, j'étais dedans. Là. T'sais, là, vraiment, le stress était là, je me sentais angoissé. Ça en était épuisant moralement de jouer au jeu. C'était vraiment cool. T'sais, là, j'aimais ça. Là.
Non, mais c'est le feeling d'écouter un film d'horreur.
Après ça, c'était lui qui disait tout à l'heure que le jeu de faire du ménage puis de la vaisselle, c'était pas. On va faire un jeu qui me stresse dans la vie. Je suis pas assez stressé.
Non, mais c'est ce que le jeu vend. C'est ce que le jeu vend, puis il réalisait très, très bien. Je suis content que je réalise que les scènes de combat sont télégraphiées incroyablement. Je pensais qu'un combat pourrait survenir n'importe quand, puis il ne se souvient pas. Puis il y a un moment où j'étais un petit peu pris dans les puzzles qui sont quand même assez basiques. Là. C'est se promener, puis trouver la bonne porte à rouvrir au bon moment, puis faire les choses dans le bon ordre. C'est pas rien de très, très complexe. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu attaquer quelque chose, juste pour voir. Et il n'y a aucun des 8 boutons de la manette qui servent à se battre qui fonctionne en dehors des combats.
OK, c'est lourdement scripté.
C'est lourdement scripté. Donc, c'est vraiment... c'est plate. Mais je me suis venu à considérer ce jeu-là comme un walking simulator mélangé avec Dark Souls.
Hey, gadon!
Ta spécialité?
C'est ma spécialité. Mais je suis comme, mon Dieu, je peux pas y échapper. Je m'y retrouve.
Donc, c'est un walking simulator mixé avec un dying simulator.
C'est ça. Donc, c'est walk and die. Donc, parce qu'effectivement, tous les puzzles, il n'y a pas d'ennemis. Donc, tu te promènes. Puis, je me suis ramassé à juste écouter l'histoire puis courir à travers le monde parce que j'avais aucune raison de marcher puis de faire attention. Je peux pas me battre.
Parce que t'as compris qu'il n'y aurait pas d'ennemis.
C'est ça. Puis, quand t'arrives dans une zone où il va y avoir du combat, les arènes sont tout le temps faites grande circulaire vide. C'est littéralement une arène, puis pour que les ennemis puissent véhiculer.
La fameuse room que tu rentres, puis qu'il y a des crêtes à 3 pieds de haut, que tu peux te cacher en arrière dans les jeux, là, t'es comme, hop, ça y est, avoir des ennemis.
Mais ça, j'avoue que c'est poche, parce que quand tu te mets à comprendre ça, tu n'as plus le stress, là.
Ben exactement. Tout a disparu d'un coup. J'ai comme, l'histoire jouait, mais toutes les voix qui essayent de me faire peur, j'ai comme.
Habituellement, dans il y a beaucoup de jeux, incluant Dark Souls, que c'est un jeu que tu vins à travers ta compréhension des systèmes. Donc, tu dois comprendre où il va y avoir des conflits, où genre, tu dois comprendre le système de jeu et l'environnement. Là, c'est un jeu qui essaie de te conter une histoire. Il devrait se battre pour faire le contraire. Il devrait t'empêcher d'être confiant du système.
Ouais, où il donne l'impression de tout ça, mais genre la seconde qu'il pense que tu vas commencer à le comprendre, puis tu mets à courir, paf, il y a quelque chose qui arrive.
Puis à date, dans tous les combats, j'ai pas terminé le jeu évidemment, mais tous les combats que j'ai rencontrés étaient évidents. Senua dégaine son épée, la caméra se positionne comme un peu moins élastique, puis plus fixe pour être capable de mieux gérer le placement. Puis les ennemis apparaissent, puis les voix te le disent, oh, watch out, watch out. Puis je dis, OK, mais il n'y a aucun stress dans ce jeu-là. Dès que le combat est fini, elle regagne son épée. Je sais que c'est terminé. Fait que là, la porte se rouvre. Je continue à courir à travers les puzzles, puis à essayer de juste
activer
les runes dans le bon ordre, puis les portails dans le bon ordre. Puis à un moment donné, elle dégaine son épée. Ben, OK, là, tu t'attelles, puis tu te prépares là-dedans.
Ouais.
Fait que ça devenait juste un échange de Walking Simulator où j'écoute une histoire, puis un combat de 3-4 minutes, suivi d'un autre bout, je me promène et j'écoute une histoire.
Ouais, je vois comment c'est décevant qu'il nous présenter une narrative complètement différente, mais on est de retour aux actions, cutscene, actions, cutscene.
Puis c'est clairement ma faute, dans le sens où je me suis moi-même créé une attente de par les jeux précédents de Ninja Theory. Je me suis dit, hey, il excelle dans le combat, puis le combat de tête, ça va être cool. Il y en a très peu, mais il y en a, mais ça fait pas partie intégrale du jeu à tout moment. Et
puis même quand il n'y en a pas, ben il crée une fausse tension.
Ben, exactement. Fait, pour l'histoire, puis quand je regarde sur la page Wikipédia du jeu, puis qu'on dit que c'est un jeu d'horreur psychologique cinématique, je suis comme, c'est ça que c'est.
T'as-tu contribué à cette page-là?
Non, malheureusement, non. c'est exactement ça que c'est. Puis ils ont raison. Donc, si j'avais peut-être mieux lu, j'aurais peut-être été moins déçu. Mais ma déception était là où la fausse tension qu'il crée, mais quand on voit au travers, ben, ça devenait un peu transparent.
Encore une fois, le marketing a beaucoup poussé sur la profondeur psychologique du jeu.
Puis étrangement, dans mes préparations pour le podcast, je vais toujours lire plusieurs reviews pour avoir les idées un peu de tout le monde et personne ne mentionne ça. Tout le monde mentionne que y a des puzzles, puis ils sont pas trop durs, mais il y a des puzzles et il y a des combats, puis les combats, c'est projet Dark Souls.
Des fois, il y a des reviews qui sont faites rapidement et qui n'ont peut-être pas passé le bout où est-ce que tu te rends compte de ce qui s'en vient.
Il y a des reviews que j'ai lues qui affirmaient avoir terminé, complété le jeu en 5-6 heures. Ils l'ont fait. Donc, je pense à un de mes collègues qui joue, lui, il en parle beaucoup dans l'histoire, puis j'en ai parlé, bizarre, ouais, je sais, mais l'histoire est vraiment intéressante. Je suis comme, cool, super, je vais sûrement le continuer et me rendre jusqu'à la fin pour l'histoire, parce que l'histoire est vraiment bien faite. Sachez que si vous embarquez dans ça en vous disant je vais jouer à Devil May Cry, vous risquez d'être déçu. Fait que, personnellement, je vais lui donner un 3 pattes de divan sur 4 parce que j'ai vu à travers la transparence de la folie.
Ah ouais, Met Your Mother, là, t'as brisé la vitre. Là.
Mais j'ai clairement surmonté ma psychose.
On est content pour toi. Et oui, on termine ça sur le fameux moment où on prend des descriptions de trucs qui s'en viennent, qu'on passe ça dans Google Translate, dans différentes langues assez souvent, pour que ça devienne incompréhensible, pour essayer ensuite de faire deviner à mes deux bozos ici, puis probablement à vous aussi, si vous avez le goût de jouer chez vous, là, essayez de deviner de quoi je parle.
Allons-y. C'est mon moment préféré.
Donc, on est du 28 août au 10 septembre. J'en ai 4 cette semaine encore, là, j'arrivais pas à me limiter à 3, là, j'arrivais pas à choisir. Puis je pense que contrairement au dicton, c'est pour les bonnes raisons, cette fois-là. Donc, je commence ça le 29 août sur Switch. Je sais, j'ai vu la face à Matt, c'est pas grave. Écoute la description. Bienvenue dans l'histoire des rassemblements inattendus entre les Grèces et les Grèces non rentables. Pour restaurer les commandes à un large éventail de champignons, nos héros s'harmonisent avec des guerriers héroïques qui voyagent sur 4 continents différents. Libérer les ennemis inutiles dans les défis coopératifs et résolver le puzzle en cours de route.
Wow! Mario X Rabbids!
C'est quoi les graisses?
Je sais pas.
Les graisses et les graisses non rentables.
Celle-là, je savais qu'elle allait être facile. Je savais que vous alliez reconnaître la date. Fait que je l'ai passé dans tellement de fois dans le translator. Je savais qu'elle devient vraiment ridicule.
Oh, tu devrais tout le temps pareil.
Je vais quand même avec un extrait audio. Bien sûr. Un indice au cas où est-ce que vous aviez un brain fart monumental. Give me a lot of heart.
C'est complètement indiscernable des Minions, hein?
Tellement.
C'est calice que j'ai... Ça fait tellement chier d'avoir genre de ce jeu-là.
Qui était là en premier? Les Rabbids ou les Minions?
Ouais. Les Rabbids. Ouais. Ouais, malheureusement. Pour eux autres, là, je parle. Là,
ouais, c'est ça.
C'est tellement hipster.
Où j'ai vu les Rabbids avant qu'il y ait des Minions?
Il était fucking gossant avant qu'être fucking gossant, ça soit en mode.
Hey, on continue ça le 29 août sur PS4 et Vita.
Alors, soyez agréablement déçus. Non, c'est pas ça.
Le jeu le plus récent est de combiner le jeu de tennis, le risque de parole et la compétition sportive. 6 joueurs intéressés et les joueurs intelligents du monde prendront le stade dans de nouveaux jeux et sont très intéressants à la fin du siècle. Avocat, cela vous l'emporte.
J'espère que c'est un jeu intéressant, par exemple. Parce que
c'est pas NFL, genre...
NFL,
je sais pas comment c'est devenu avocat, parce que le titre du jeu, je l'avais laissé dedans, il est devenu avocat. On parle ici, en fait, j'ai un extrait audio au cas où ça vous aiderait, mais non.
Non, ça se peut pas, là, mais genre, comme, ils sortaient pas Ease Origins du PS4 bientôt?
Ah oui, mais c'est pas ça.
OK, parce que ça sonnait comme
Avocat, attorney.
Falcon.
Donc, avocat, c'était Windjammers.
Oh yeah! Wind motherfucking jammers.
Ouais.
Avocat?
Je sais pas.
Mais tennis?
Ah, okay. D'autres, ils ont changé Wind. Je vais séparer le mot, là. Windjammers, c'est devenu avocat, tennis. Ouais.
Je m'en veux de ne pas avoir reconnu la musique, par exemple. On a trop souvent joué dans des arcades où il y a trop de bruit.
C'est sûr que tu n'entends pas la musique.
Ouais. Un grand jeu d'arcade.
Donc, j'y vais avec le 1er septembre au cinéma, mais c'est américain seulement. Après une grande destruction, un agent de hockey est obligé de laisser ses efforts pour se rendre à un grand invité et rester au travail en tant que courtier d'assurance à la demande d'une femme enceinte. Cependant, il ne peut résister à la montée des passagers, alors il essaie d'appeler sa première gloire.
Hein?
Hein? Indice? Ça, c'est un indice?
Ouais, c'est la réponse, l'indice.
Ah,
là.
OK.
Holy fucking shit! Look at that face period!
Dans la sortie américaine de Goon 1?
Goon 2.
2? OK, ouais.
Ouais, l'indice.
Ouais, 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 ouais.
Mais ouais, c'est pour ça que je l'avais manqué la sortie quand, quand le film était sorti ici au Québec.
Parce que t'avais des listes
américaines. Parce qu'il sortait 6 mois plus tard aux États-Unis. Ça.
Au store.
Voilà. Donc, Goon 2, pour ceux d'entre vous qui nous écoutent tous. Les autres diront Club Vidéo, je vais même être sorti.
Oui.
Je termine ça le 6 septembre sur PS4 et Xbox One. Le jeu était une ville de réhabilitation.
Jeff a juste à lui.
Tu peux te buzzer tout de suite?
Non, tu me laisses lire ma
défense. Ah, gueule.
C'est moi qui réponds.
Sinon, je te force à écouter un segment. Dans...
Je te force à écouter mes dictons encore.
Oui, c'est ça. Le jeu était une ville de réhabilitation plus sûre, un ennemi fort et son armée ouverte, un guerrier rouge. Chaque joueur crée son propre nom appelé le gardien qui décide d'être une communauté. En tant que joueur, les joueurs doivent comprendre de nouvelles compétences et outils pour combiner les festivals de la ville, lutter contre la restauration de leur maison. Dans ce jeu, vous pouvez vérifier la fin de nos circuits autour de notre système de tournesol et l'explorer avec différents types d'activités que vous pouvez trouver.
Animal Crossing Amiibo Festival.
Yes!
Bien! À la Saint-Amand. Destiny 2. Eh oui.
Donc, si vous en avez envie, si vous le pouvez, ben, vous pouvez donner un coup de main au podcast au patreon.com/divanquest. Vous pouvez nous rejoindre, trouver les épisodes sur le divanquest.com, puis sinon, ben, googler tout le reste des affaires sociales possibles. le podcast oui, est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzoweb.com. Vous pouvez aller liker notre podcast, le mettre dans votre liste de favoris. Vous pouvez aussi aller voter pour nous sur baladoquebec.ca. Allez sur iTunes, laissez des petites étoiles, nous faire monter dans les rankings, laissez des commentaires. Puis sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine avec la causeuse qui va parler de l'annonce programmée de la mort d'Adobe Flash. Et on se revoit là.
Game on!
Game on!